Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous sur RMC et sur RMC Story. Nous sommes le vendredi 19 juin, bientôt le week-end, oui, mais un week-end caniculaire. La barre des 40 degrés dépassée dans plusieurs villes de France et des conséquences en pagaille, trains supprimés, oraux du bac décalés dans l'Académie de Poitiers, des événements sportifs et culturels annulés. Comment faites-vous pour travailler dans ces conditions? Venez me le raconter au standard d'RMC et venez surtout interpeller le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, qui sera dans ce studio dans 10 minutes. Il vous attend. N'hésitez pas à venir l'interpeller. Avec ces températures, faut-il garder les écoles ouvertes? Nous passerons un coup de fil aux représentants des profs à 7h40. On a l'impression que dans les écoles, c'est un peu le bricolage pour tenter chacun de s'adapter. Et puis à 8h30, mon invité dans le face-à-face, c'est l'ingénieur spécialiste du climat, Jean-Marc Jancovici. Ne le manquez pas, Jean-Marc Jancovici, il réclame du pragmatisme et des investissements pour faire face au changement climatique. Ce week-end, c'est aussi la fête de la musique. Faut-il interdire le concert militant organisé par la France Insoumise? À 7h50, ce sera le débat d'RMC entre la voix de droite, Charles Consigny, et la voix de gauche, Cécile Duflot. Et puis on continue de jouer sur RMC. La prime Coupe du Monde a été gagnée hier. L'heureux chanceux, c'est Anthony qui a remporté, écoutez bien, 67 500 euros. C'était pendant le Moscato Show. Alors on remet une nouvelle prime en jeu et vous pourrez vous inscrire avant 9h ce matin. Restez bien à l'écoute. 6h59. Dans un instant, le journal de 7h. Et tout de suite, la météo, Lou Garnier. C'est donc la vigilance orange canicule qui s'étend aujourd'hui à 53 départements.
Oui, tout à fait. Ce matin, les minimales sont à la hausse. Il fait 16 degrés à Rennes, 18 à Clermont-Ferrand et jusqu'à 24 degrés à Nice. Les températures vont monter d'un cran cet après-midi. Il fera entre 35 et 38 degrés sur une large partie du pays, avec des pointes à 39 degrés comme à Nevers ou à Troyes. En parlant de cet après-midi, justement, on aura des averses orageuses entre la Picardie et les Flandres, ainsi que sur les reliefs du Jura, des Alpes et des Pyrénées, avec un peu de grêle par endroits, voire de fortes rafales. Ailleurs, le temps restera sec et ensoleillé. Un mot de demain, les températures baissent un petit peu au nord de la Loire avant de remonter dimanche. Le pic de chaleur est attendu lundi avec des pointes jusqu'à 40 degrés.
Il est 7h, excellent réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Merci d'avoir choisi RMC. Tout de suite, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'ADN de Jérôme Barella retrouvé sur le corps de Liana, victime d'un viol selon les résultats d'autopsie. Un épisode étendu, durable et intense. Les mots de Météo France pour qualifier la vague de chaleur qui déferle sur le pays n'ont sans conséquence. Elles sont nombreuses à l'école pour les candidats au bac ou encore dans les transports. Et le Mexique, première équipe à se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe du Monde.
Du nouveau ce matin dans l'enquête sur la mort de Liana.
Deux semaines après la découverte de son corps dans un silo désaffecté du Gers, les résultats de l'autopsie ont été dévoilés. Et si on ne connaît pas les raisons de son décès, on apprend que la jeune collégienne de 11 ans a été victime d'un viol. Et le principal suspect de cette affaire se retrouve un peu plus dans le collimateur des enquêteurs, Julien Coudreau.
Oui, le profil biologique de Jérôme Barella a été retrouvé sur les parties intimes de Liana, ce qui permet d'établir, selon les enquêteurs, que la fillette de 11 ans a certainement été violée par le principal suspect mis en examen dans cette affaire. Des expertises complémentaires doivent permettre de déterminer les circonstances de ce viol ainsi que les causes de la mort de la jeune victime, même si, selon nos confrères de BFM TV, l'autopsie révèle aussi que Liana a été bâillonnée avec du scotch et que son corps porte des traces d'ecchymose, notamment sur la tempe gauche. Informés dès hier de ces résultats, les parents de la collégienne ont réagi par la voix de leur avocat. Face au pire pouvant arriver à un enfant et à des parents, leur colère n'a d'égal, je cite, que leur dégoût, fait savoir leur conseil.
Il faut rendre nos procédures plus efficaces, réagit de son côté Emmanuel Macron à l'affaire. Il était l'invité de France 2 hier soir, occasion pour le chef de l'État de rappeler aussi l'importance de respecter les mesures de vigilance face à la vague de chaleur qui frappe le pays, avec une première victime hier, un homme de 30 ans en arrêt cardio-respiratoire retrouvé sur une piste d'athlétisme du Val d'Oise, l'un des 53 départements placés en vigilance orange canicule ce matin. L'épisode sera intense et durable, prévient Météo France, avec un pic attendu dimanche ou lundi. On a déjà franchi la barre des 40 degrés hier à Montmorillon dans la Vienne. Ça va se poursuivre aujourd'hui. Comme à Dijon, il fait déjà plus de 20 degrés ce matin et Rachida a profité d'une journée de congé pour se lever tôt après une nuit étouffante.
Je suis sorti pour prendre l'air, ce qui est à commère, quoi. Ce matin, en sortant vers 5h30, il y avait un petit peu de vent, mais Il fait chaud, très très chaud.
La nuit, elle a été difficile?
Oui, très difficile. Ouais. À la maison avec ma femme, on n'arrivait pas à dormir. Malgré qu'on avait un petit ventilateur, quoi, une clim, eh ben, on a du mal à dormir. Je suis de la tête beaucoup, j'arrêtais pas de me retourner, droite à gauche, je me levais, je revenais pour boire de l'eau plusieurs fois. Moi, ma femme, effectivement, pareil. Le reste de la journée va être très compliqué. Je vais rester à la maison, fermer tous les volets et essayer d'avoir de la fraîcheur, quoi.
Un propos recueilli par Caroline Renaud ce matin à Dijon.
Et ne manquez pas, dans 10 minutes, dans ce studio sur RMC, le ministre du Travail répondra à mes questions, mais aussi aux vôtres, justement, sur cette capacité à s'adapter ou pas. Appelez-nous pour témoigner. Comment vous faites pour travailler? Est-ce que vous avez adapté vos horaires? Est-ce que vous avez adapté la manière dont vous travaillez, vos habitudes? Je vous attends au 32-16.
Coup de chaud aussi sur les rails, trafic un temps interrompu, gare de l'Est hier soir à Paris. Il y a toujours des retards au départ ce matin sur le RE, c'est la circulation qui a été coupée sur l'ensemble de la ligne hier soir, des trains arrêtés au beau milieu des voies Nicolas Genestière et des milliers de passagers livrés à eux-mêmes sans climatisation.
Après de longues minutes passées sous terre, des dizaines de passagers sortent du train en file indienne.
Attendez, j'immortalise le moment là, parce que franchement, on va pas me croire.
Quelques mètres plus loin, depuis la même rame, une autre voyageuse s'engage en bordure des voies.
On s'est débrouillé comme on pouvait, parce que fallait faire attention de bien rester sur le côté. Et puis bah, de pas non plus tomber dans le vide où il y avait les voies, quoi. Surtout du fait d'installation électrique qui est sur les voies.
Un peu moins d'un kilomètre de marche, selon elle, sans encadrement ni personnel pour les accueillir sur le quai. Dans un autre train, Génis s'est resté bloqué près d'une heure dans un wagon bondé sans climatisation sous le soleil.
Vraiment la chaleur, si vraiment vous étiez avec nous, c'était insupportable. On était très très serrés, on étouffait, on était tous collés les uns sur les autres.
Des passagers finissent par forcer les portes de la rame.
Il y avait des mamans enceintes, il y avait des mamans qui avaient des poussettes avec des petits bébés. Dès qu'ils ont vu la possibilité de sortir, ils sont directement sortis. Et c'était un soulagement pour tout le monde.
Tous ont regagné le quai à pied. Les sorties sur les voies sans accord du personnel sont strictement interdites, rappelle la SNCF, et retardent la reprise du trafic.
Plusieurs conséquences de cette chaleur. 71 trains corail supprimés. La circulation différenciée mise en place ce matin en Île-de-France. Des écoles fermées ou partiellement. Le report d'une semaine des oraux du bac prévu lundi et mardi dans plusieurs départements. Annulation également de plusieurs manifestations sportives prévues ce week-end. Festives aussi. Des concerts pour la fête de la musique ont été annulés. Ce sera le cas à Brive-la-Gaillarde ou encore Nanterre. Et quand les événements de la fête de la musique ne sont pas suspendus, le gouvernement appelle à la vigilance. Pas en raison de la chaleur, mais du risque de débordement dimanche soir. Message de fermeté, Maxime Cliérusa, envoyé aux préfets, police et gendarmerie par le ministre de l'Intérieur.
Oui, dans une note manuscrite, Laurent Nunez leur indique qu'aucun débordement, violence, dégradation et pillage ne saura être toléré. La priorité sera l'interpellation des auteurs, des directives justifiées par la délinquance d'opportunité, la consommation excessive d'alcool ou encore par les possibles violences urbaines en fin de soirée, des débordements qui, dit-il, pourraient être amplifiés par les matchs de la Coupe du Monde, rappelant sans les citer les violences lors de la finale de la Ligue des Champions le mois dernier. Certains maires et préfets n'auront d'ailleurs pas attendu ces consignes pour prendre des arrêtés. Dans le Calvados et l'Isère, le transport et la détention de liquide inflammable, de feux d'artifice ou encore de mortiers ont été interdits à Rennes. La mairie a même décidé de piétonniser le centre-ville historique dès 17h dimanche.
À retenir également ce matin, les pêcheurs du golfe de Gascogne qui vont devoir encore rester au port l'an prochain pour une durée d'un mois. Annonce du gouvernement afin de protéger les dauphins de captures accidentelles. C'est la quatrième année de rang que la mesure est reconduite. Elle concerne près de 300 bateaux de plus de 8 mètres. L'Iran a déposé un recours auprès de la FIFA en raison de restrictions qui lui sont imposées à la Coupe du Monde. Elle se poursuit avec un premier qualifié. Vous l'avez vécu cette nuit sur RMC, le Mexique qui rejoint les 16e de finale après sa victoire 1-0 face à la Corée du Sud. À retenir également le carton du Canada en ballotage favorable après sa victoire face au Qatar 6-0. Dans ce même groupe B, la Suisse a battu la Bosnie 4-1. Les Bleus ont profité d'une journée de repos hier avant de reprendre l'entraînement ce vendredi à 3 jours d'affronter l'Irak. Ce sera lundi soir, 23h. Ce sera là aussi sur RMC. Quelle équipe de France sur le terrain? Faut-il faire tourner? Didier Deschamps va devoir trancher. Il va aussi devoir trouver une place à Ousmane Dembélé. Décevant face au Sénégal, le ballon d'or, Valentin Germain n'affiche pas vraiment le même visage avec l'équipe de France qu'avec le PSG.
Oui, et comme un symbole, Ousmane Dembélé a été le premier joueur français à sortir contre le Sénégal après un match insipide, un seul tir, contré, du déchet. L'ancien international français Eric Dimeco s'interroge.
Si Dembélé n'arrive pas à s'exprimer, à apporter un vrai plus, je me demande s'il ne faudra pas ouvrir la concurrence. Et il a pas assez de stats et de matchs référence à l'équipe de France pour qu'on puisse lui donner un totem d'immunité.
7 buts en 60 sélections en bleu. Le dernier, il y a plus d'un an, loin de son statut de meilleur buteur avec Paris, où il joue dans l'axe à la mi-temps mardi. Le sélectionneur Didier Deschamps, déçu, l'a décalé à droite au profit de Michael Olise.
Je trouvais que de par son positionnement, il était trop haut et on avait un manque de lien. Et Ousmane a été bien meilleur aussi à droite.
Et Dembélé devrait rester sur ce côté. Ça ne pose pas de soucis selon le défenseur Malo Gusto.
Honnêtement, ça, je ne pense pas que ça devrait être une grande préoccupation. Chacun est très polyvalent, peut performer à beaucoup de postes. On sait qu'ils aiment bien permuter avec Michael. Je pense qu'on n'a vraiment pas à s'inquiéter.
L'Irak, adversaire supposé le plus faible du groupe, ressemble à l'équipe idéale pour retrouver de la confiance.
Et ce sera donc lundi 23h. Et puis notez le coup d'envoi des demi-finales du Top 14 ce soir 21h sur RMC. Le Racing 92 défie Toulouse. Là aussi, ce sera à vivre sur notre antenne.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. La moitié du pays en vigilance orange, canicule, 40 degrés attendus aujourd'hui dans le sud-ouest, du Poitou jusqu'au Val-de-Loire. Comment travailler dans ces conditions? Bonjour Jean-Pierre Farandou.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio avec nous. Vous êtes le ministre du Travail. Il faut adapter les conditions de travail pour protéger les salariés. Vous nous expliquerez comment, voilà votre parti pris dans un instant. Et puis je vous attends au 32-16. Vous travaillez peut-être dans le BTP, sur les routes, en plein air. Comment est-ce que vous faites face à cette vague de chaleur? Est-ce que vous avez adapté vos horaires? Est-ce que vous en avez discuté? Si vous êtes patron ou employé, appelez-nous au 32-16 pour témoigner et interpeller le ministre.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Vous êtes peut-être déjà au travail et déjà sous la chaleur. Travailleur du BTP, indépendant, qui travaille dehors ou sur des postes fortement exposés à la chaleur, eh bien il faut s'adapter. Bonjour Jean-Pierre Farandou.
Bonjour.
Vous êtes le ministre du Travail. Merci d'avoir choisi RMC ce matin. Que dites-vous à ceux qui nous écoutent, qui travaillent peut-être dans tous ces métiers exposés à la forte chaleur, à la fois à ceux qui travaillent et à leurs patrons?
Oui, exactement. Je veux m'adresser aux employeurs, d'abord, qui doivent bien sûr organiser les chantiers, en particulier dans le BTP ou dans d'autres secteurs où on travaille dehors. Je pense aussi à l'agriculture, hein, où les gens sont amenés à travailler à l'extérieur. Je pense aussi aux salariés qui doivent prendre des précautions. Les employeurs, ils ont des obligations. Depuis le mai l'année dernière, il y a un décret qui est sorti, qui est très clair. Au fur et à mesure des alertes météo, jaune, orange, rouge, les entreprises doivent prendre des mesures. Les mesures, c'est du bon sens. C'est déjà ne pas exposer les salariés aux heures les plus chaudes, donc ne pas hésiter à décaler les horaires de travail. Dans le BTP, par exemple, après l'émission ici en plateau, je vais voir un chantier qui a fait le choix intelligent, bien évidemment, travailler plus tôt le matin, arrêter de travailler aux heures chaudes et éventuellement reprendre plutôt fin d'après-midi ou début de soirée. S'il faut, on arrête les chantiers plus longuement. Et d'ailleurs, dans le BTP, il y a même une caisse. Hein, c'est-à-dire que les salariés, quand ils arrêtent de travail, ils sont rémunérés. Les entreprises du BTP se sont mises ensemble pour avoir une caisse qui permet de financer ces arrêts de travail qu'il faut décider quand il fait trop.
Et vous invitez, y compris d'autres secteurs, à s'inspirer de cette manière d'avoir fait?
Oui, parce que le premier bon sens, donc on évite les heures les plus chaudes. Bien sûr, tout ce qui est hydratation, il y a une image qui est très bonne. Hein. Il faut consommer encore plus d'eau, de l'eau fraîche même, en quantité, ne pas exposer.
Et ça, ils ont l'obligation de le faire. C'est-à-dire que c'est pas optionnel.
Non, c'est
lorsque la canicule, l'alerte canicule orange est déclenchée, les patrons doivent fournir de l'eau fraîche et une manière de s'abriter à leurs employés.
Ah oui, c'est une obligation qui est très très claire. On voit bien qu'il y a une proportion au fur et à mesure que l'alerte monte, c'est-à-dire que les conditions sont de plus en plus intenses, parce que c'est un vrai risque. Hein. On parle d'un vrai risque professionnel, homogène à d'autres risques, qui peut provoquer des malaises, qui peut provoquer des accidents et même parfois des drames. Donc on est sur quelque chose de sérieux en matière de santé professionnelle.
C'est vraiment une forme d'alerte que vous lancez ce matin en disant ça n'est pas optionnel, c'est une obligation, il faut le faire. Est-ce qu'il y aura des contrôles? Est-ce qu'il y aura des sanctions?
Oui, d'ailleurs, on a renforcé les sanctions. Il y a une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps, qui a été promulguée il y a quelques jours et validée par le Conseil constitutionnel pas plus tard qu'hier. Une loi sur la fraude qui dit qu'une entreprise qui ne fournirait pas le fameux document unique d'évaluation des risques qui permet d'organiser la prévention pour la santé des travailleurs avec un chapitre particulier autour de la chaleur intense serait sanctionnée. Et les inspecteurs du travail vont bien sûr renforcer leur contrôle sur cette thématique, particulièrement dans cette période de canicule.
Et si on n'a pas les moyens de permettre à ceux qui travaillent de s'abriter, est-ce qu'il faut parfois se dire pendant 3 jours, on met tout le monde, pas au chômage technique, mais comme vous le disiez, avec une caisse pour les indemniser, mais on préfère ne pas prendre ce risque? Est-ce qu'il faut en arriver là?
Trois jours, c'est peut-être là encore, il faut regarder. Pour le moment,
la vague de chaleur, en tout cas, on sait qu'elle dure jusqu'en début de semaine prochaine au minimum.
Bien sûr, pendant ces périodes-là, il faut prendre des mesures, mais peut-être pas l'arrêt total sur toute la journée. On voit bien que le matin, il y a encore des températures qui permettent de travailler, pareil le soir. Donc, c'est pas l'arrêt total sur une période de plusieurs journées. C'est l'adaptation des horaires de travail qui peut aller jusqu'à l'arrêt des chantiers pendant ces périodes particulières, qui, je le redis, sont suivies par Météo France. Et ces alertes météo, elles guident les dirigeants d'entreprises qui ont des plans de prévention adaptés selon la couleur de l'alerte météo.
Jean-Pierre Farandou, vous êtes le ministre du Travail, mais vous avez avant dirigé la SNCF pendant 5 ans. Vous l'avez entendu, on nous dit effectivement que dans ces moments-là, précisément, il faut utiliser aussi les transports en commun. Et il y a une petite centaine, près de 70 trains qui sont déjà annulés pour les jours qui viennent, notamment sur la ligne Paris-Limoges et Paris-Clermont. Ça veut dire quand même qu'on ne les a pas anticipés suffisamment alors qu'on savait que ça venait, ces moments, ces pics de grande chaleur.
Moi, je ne veux pas me substituer aux dirigeants de la SNCF, je l'ai été, je peux juste vous dire que ce sont des mesures là aussi de précaution. On parle de lignes où ce sont des matériels très anciens qui circulent. Les neufs arrivent vite, je crois. Les neufs arriveront en début l'année prochaine. En attendant, ces vieux matériels supportent mal la chaleur, notamment tout ce qui est équipement de climatisation. Ils n'ont pas été, comme ils sont vieux, ils ont été calés pour des températures autour de 30 et 35 degrés. Parce qu'à l'époque, ça ne dépassait pas 35 degrés. Maintenant, on dépasse les 35. Donc, plutôt que le matériel tombe en panne, infligeons aux voyageurs vraiment des situation insupportable. Il faut peut-être avoir la sagesse, effectivement, de réduire la circulation des trains. Je crois que c'est ça, c'est une mesure de précaution pour la santé des voyageurs.
On parlait des travailleurs en plein air, il y a les marchés. Nathalie, vous faites partie de ceux qui sont sur les marchés et vous êtes en Bretagne. Alors peut-être qu'on peut espérer qu'il fait un peu frais et encore. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Vous vendez sur les marchés, on va en dire ce que vous vendez, de quoi se protéger précisément, hein, c'est ça?
Exactement. Moi, je vends des chapeaux anti-UV.
Ok, donc vous avez presque intérêt à ce qu'il fasse chaud. Je ne veux pas vous mettre en difficulté, Nathalie, mais...
C'est ça. Mes collègues, quand mes collègues voient la température sur les marchés, ils me disent, mais ça, c'est ta journée aujourd'hui. Donc là, voilà. Ça va être ma semaine même.
mais cela dit, ça reste très difficile, non, de travailler sur les marchés, précisément, dans ces moments de grande chaleur. Comment ils font aussi vos collègues? Je pense notamment, alors vous vendez des chapeaux anti-UV, mais j'imagine que vous n'êtes pas loin des bouchers, des rôtisseries. Comment ils font?
Exactement. Ils sont en général protégés également. La clientèle arrive un peu plus tôt. Et donc, en général, on termine aussi un peu plus tôt que d'habitude. En général, vers midi, on sent que les clients...
ne sortiront pas.
Ont envie de rentrer chez eux. Et donc, du coup, on termine un peu plus tôt que les autres jours.
Merci Nathalie. Une question, Jean-Pierre Farandou, sur justement ces questions d'horaire. On sait qu'au milieu de la journée, quand on va en Espagne, quand on va au Portugal, les horaires de travail sont très différents. Ils commencent plus tôt, ils retravaillent dans l'après-midi, mais il y a une habitude de rentrer faire la sieste chez soi. Est-ce que c'est un conseil que vous donnez à ceux qui nous écoutent?
Oui, c'est intéressant effectivement de regarder comment ça se pratique culturellement, historiquement, dans des pays comme l'Espagne, notamment l'Espagne, le sud de l'Espagne, il fait très chaud, comment ils pratiquent. Effectivement, on voit bien que l'idée est toujours la même, c'est se protéger pendant les horaires les plus chauds. Alors eux, c'est vraiment installé dans leur rythme de vie. C'est l'idée dans les entreprises, on ne le fait pas dans la société en général.
Est-ce que notre société doit s'adapter?
Peut-être, si vraiment on est destiné à avoir des horaires andalous de manière structurelle, il faut peut-être faire comme les andalous. Mais effectivement, il y a un sujet de société, comment la société globalement s'organise. Et ensuite, tout de suite et sans attendre, dans le monde du travail, il faut prendre des mesures de précaution pour protéger la santé des travailleurs.
Il y a l'urgence, merci. Jean-Pierre Farandou, vous êtes ministre du Travail. Hier, on parlait des tests salivaires et je recevais votre consoeur, la porte-parole du gouvernement, qui disait qu'elle n'avait pas encore fait le test, mais que le gouvernement voulait montrer l'exemple. Exemple, en faisant ces tests pour prouver qu'on ne consomme pas de drogue. Est-ce que les entreprises doivent suivre l'exemple?
Je pense sur la drogue, moi l'idée est simple, c'est que la drogue ne doit pas avoir sa place dans l'univers du travail, voilà, donc c'est simple. Il y a déjà aussi des possibilités légales qui existent, puisque dans les règlements intérieurs, les entreprises qui ont des emplois de sécurité, c'est le cas de SNCF par exemple, vous imaginez bien, un conducteur de train, un aiguilleur, ne doit pas être sous l'emprise de la drogue, ça serait une prise de risque énorme en matière de sécurité des trains. Donc là, l'employeur a le droit, et j'ai presque dire le devoir, de faire des tests, parce qu'il faut montrer effectivement qu'on ne veut pas que les salariés arrivent sous l'emprise de la drogue.
Est-ce qu'il faut élargir ça au monde du travail de manière globale, y compris hors question de sécurité à proprement parler?
C'est une bonne question. En tout cas, moi, je suis prêt à travailler là-dessus avec les partenaires sociaux. Je pense qu'effectivement, envoyer un message très clair qui dirait, voilà, il n'y a pas la place de la drogue dans le monde du travail, on n'en veut pas. Ça a été le cas avec l'alcool. Vous savez, la génération d'avant a connu des problèmes de l'alcool au travail. Il n'y en a plus. On a réussi à l'éradiquer. Je pense que de la même manière, il faut une volonté d'éradiquer la drogue dans le monde de l'entreprise.
Ça veut dire des tests inopinés? Ça veut dire, si jamais on se rend compte qu'il y a des consommateurs, il faut pouvoir les licencier?
D'abord, il faut regarder une image de prévention. Vous savez, moi, dans le plan de santé au travail que je viens de lancer, il y a de la santé mentale. La santé mentale, c'est une des causes amont. Moi, je voudrais aussi que sur ce sujet-là, on regarde les causes racines, les causes amont, avant d'envisager des mesures plus radicales. Regardons pourquoi d'abord et traitons cette partie-là.
Merci beaucoup Jean-Pierre Farandou d'avoir répondu à mes questions. Ministre du Travail, je vous laisse partir justement sur un chantier, voir un chantier qui a adapté les horaires à cette canicule. 7h20 et c'est Arthur Chevalier qui est avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, la France a fait fermer 9 stations de police clandestines chinoises depuis un an. En Chine, espionnage et pouvoir sont liés.
Eh oui, le Parti communiste chinois a les plus gros services secrets du monde et leur technique, Apolline, dépasse tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous nous le dites dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. On se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h22, l'histoire qui éclaire notre actualité comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, une enquête du journal Le Monde révèle que depuis début 2026, le contre-espionnage français a fait fermer 9 stations de police clandestines sur le territoire français, mais au service de la Chine.
Oui, c'était de véritables commissariats fantômes hein, qui étaient notamment chargés de contrôler les ressortissants chinois sur notre territoire. Bon, en fait, on va être clair, hein, c'était pour les surveiller. Et attention, leur mission ne s'arrêtait pas là, puisque ces agents chinois avaient aussi pour mission de renvoyer de force à Pékin tous les dissidents qui auraient pu se planquer en France. Bref, c'est ce qu'on appelle de l'ingérence étrangère en bonne et due forme.
La Chine est particulièrement connue pour la qualité de ses services secrets.
Ce sont même parmi les meilleurs du monde. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Chine, les services secrets, c'est pas seulement une partie de l'État, c'est l'État lui-même. Contrôler la population, c'est la base du travail du Parti communiste chinois. Pour lui, gouverner, ça veut dire surveiller. Et la structure qui s'occupe du renseignement, ça s'appelle le Guanbu. Alors le Guanbu, c'est un mot chinois évidemment, et ça veut dire le ministère de la sécurité de l'État. Ça a été créé en 1983 par un homme qui s'appelait Deng Xiaoping. C'était le successeur direct de Mao Zedong à la tête de la Chine.
Ses effectifs sont impressionnants.
Oui, c'est colossal, hein, puisqu'on estime qu'au total, il y a plus de 200 000 agents qui travaillent pour ce ministère de la sécurité de l'État. Et pour se rendre compte de cette taille, Apolline, eh bien, il suffit de les comparer par exemple aux services secrets d'autres pays. La CIA, c'est à peu près 20 000 agents. La DGSE, donc le service secret français, c'est 7 500. La Chine, 200 000.
J'imagine que dans l'histoire, les espions chinois se sont quand même fait prendre.
Alors oui, c'est assez rare, mais ça arrive. Bon. Ça arrive et il y a un cas très célèbre. C'est celui de Shu Junwang. Alors Shu Junwang, c'est un homme qui arrive aux États-Unis en 1994. Il devient professeur d'université, il écrit des livres, il défend la liberté, la démocratie. Tout va bien, ça devient rapidement une figure mondiale de la contestation à la dictature. Il donnait aussi des conférences dans le monde entier et forcément, il fréquentait plein de dissidents chinois qui du coup lui racontaient tout ce qu'il faisait.
Et finalement, on a appris que c'était une taupe, oui, un espion.
C'est insensé, mais effectivement, le FBI va découvrir le poteau rose. À la fin des années 2010, Shu Jun va de plus en plus en Chine pour des raisons un peu inexplicables. Du coup, le gouvernement américain se met en alerte, se met à regarder ce qu'il fait de près et on apprend que toutes les informations qu'il collectait auprès des dissidents, eh bien, il les balançait directement au pouvoir chinois via des messageries cryptées. Du coup, en 2024, il a été reconnu coupable d'espionnage aux États-Unis, même s'il plaide son innocence.
Incroyable. L'enquête donc de nos confrères du Monde est à retrouver en ligne sur ces stations de police sur le sol français. Merci Arthur Chevalier. Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Oula. Salut Arnaud. À 8h30, je reçois le spécialiste du climat, Jean-Marc Jancovici.
Bah oui, parce qu'à cause de vous tous, là, c'est la canicule.
Voilà.
Non, alors je dis vous tous autant au sens où c'est une responsabilité collective.
Oui.
Le réchauffement climatique, je sais bien que Victor Pourchet n'est pas le seul responsable, malgré ses trajets en avion pour Mykonos avec des copines influenceuses. Et je m'inclus dedans, Apolline, hein, vraiment. Hein, je regrette, moi, les vacances à Dubaï en 2011. Après, je pouvais pas savoir que ça allait tuer plein de nos personnes âgées. Bon, ceci dit, Arthur Chevalier me disait, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est toujours ça en moins d'auditeurs pour RTL. Oui, évidemment,
faut positiver.
C'est moi qui dis ça.
Bah, les jeunes sont chez nous.
Pourquoi c'est pas Victor? Alors, ce qui est embêtant, c'est que ceux qui nous quittent ne sont pas forcément remplacés parce que par cette chaleur, on n'a pas envie de faire des rencontres. On se sent, tu sais, moite, ouais, on est claqué, on n'a pas envie de danser à la fête de la musique et de faire des câlins sous une couette. Faudrait adapter les rencontres. Tu veux rencontrer les femmes les plus froides de ta région? Envoie Glagla au 8-12-12 et découvre les femmes frigides les plus proches de chez toi. Elles n'ont aucune envie de toi et mettront une ambiance polaire dans ta chambre et dans ton lit. Alors tout de suite, découvre nos frigidounettes.
Bonjour, je m'appelle Colette, je suis professeure de latin en retraite et j'ai toujours trouvé extrêmement vulgaire les choses de la bagatelle. Une fois, j'ai fermé les yeux, j'ai pensé à mon pays pour concevoir mon enfant qui est depuis dépressif et Premier ministre.
Merci Madame Le Cornu.
Oh non.
Mais il y a la version femme, hein, évidemment, oui. Bien sûr, les hommes les plus froids de ta région, tout ça. Mmh. Bonjour, je m'appelle Basile et tu cuisines moins bien que ma maman. T'en veux pas un rendez-vous. Bref, le climat est suffocant et ça va être pire ces prochains jours.
L'été sera chaud, l'été
l'été sera très très chaud. Et on est, vous avez vu Apolline, on n'est que en vigilance orange. Qu'est-ce qu'il faut pour la vigilance rouge? C'était un volcan en éruption place de la Concorde. Heureusement, donc on a Jean-Marc Jancot.
J'ai l'image, oui, j'ai l'image.
Comme invité, c'est l'invité idéal en cas de canicule, Jancot. Jean-Marc Jancovici, bonjour. La situation est-elle si grave que ça? Oui, alors, un système physique s'est mis en place. On va avoir des étés plus chauds, ce qui va engendrer une crise économique, une crise sanitaire, probablement des flux migratoires plus importants et donc des guerres. Et on n'aura pas les moyens de tout régler et donc on va tous crever.
Vous le faites très 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 bien.
Merci.
Et ben voilà, c'était
vous
super.
Vous avez bien refroidi l'ambiance, Jean-Marc Jancovici. Vu la chaleur, il faudrait même lui proposer une chronique quotidienne. Oui. Et oui, je le fais très bien. Merci.
Ah, vous le faites très, oh là là, très, tout très à l'heure. Merci Arnaud de Manche. Il est 7h27 sur RMC et RMC Story. Évidemment, dans un instant, le journal et la météo. À tout de suite. 7h29, la canicule, Lou Garnier.
53 départements placés en alerte orange canicule par Météo France aujourd'hui. On sort d'une nuit très chaude, notamment dans les grandes villes. Il a fait plus de 20 degrés en région parisienne, en Alsace, en région lyonnaise et dans le sud-ouest. Ce matin, il fait 18 degrés à Angers, 19 à Reims et au Havre et jusqu'à 25 degrés dans le sud de la Corse. Alors cet après-midi, les températures restent très élevées. Il fera 36 degrés à Nancy et Dijon, 38 à Bourges et jusqu'à 39 degrés à Melun. Demain, on aura des averses orageuses sur une bonne moitié nord du pays. Et puis une petite baisse des températures au nord de la Loire notamment. La calmie sera de courte durée. Hein. Les températures remontent dimanche. La barre des 40 degrés devrait être atteinte dans le sud-ouest jusqu'au Poitou et au Val-de-Loire.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une chaleur irrespirable qui continue de s'étendre en France. Les oraux du bac sont reportés d'une semaine dans l'académie de Poitiers. On le redoutait depuis la découverte de son corps. La petite Liana a été victime d'un viol. Les premiers résultats de l'autopsie ont été dévoilés. Et puis Thomas Ramos, forfait pour la demi-finale du top 14 ce soir contre le Racing. Un doute de plus pour le Stade Toulousain, pourtant champion ces trois dernières années.
Les établissements scolaires s'organisent face aux fortes chaleurs.
Comment faire cours quand il fait plus de 30 degrés dans la classe? À Tours, à Sens, les écoles vont fermer cet après-midi. La quasi-totalité des autres resteront ouvertes. Des établissements scolaires qui adaptent leur emploi du temps. Celui du bac est bousculé dans l'académie de Poitiers. Les oraux prévus lundi et mardi sont reportés d'une semaine, Bérangère Bocquillon.
Oui, les 4500 élèves qui devaient passer leur grand oral du bac lundi et mardi après-midi dans les départements de Charente, Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne vont avoir une semaine de plus pour réviser. Ils passeront finalement leur grand oral le matin, les lundis 29 et mardi 30 juin. Le rectorat de Poitiers explique que l'académie sera particulièrement touchée par la canicule et que ces départements ne sont pas habitués aux grandes chaleurs. Pour le moment, aucune autre académie n'est concernée par un report des épreuves du bac. Dans celle de Limoges, où tous les établissements sont centres d'examen, il sera facile de s'organiser pour choisir les salles les plus fraîches, d'après le rectorat. À Paris, aucune épreuve du bac général n'était prévue lundi ou mardi.
À partir de midi, 53 départements en vigilance orange canicule. Hier, la journée a encore été suffocante. Un homme de 30 ans est mort sur une piste d'athlétisme dans le Val d'Oise. Emmanuel Macron appelle à une grande vigilance. Ça a aussi été compliqué pour des passagers du RER E à Paris. Restés coincés dans la rame en pleine chaleur hier, le trafic a repris tard dans la soirée après plusieurs heures d'arrêt au départ de la gare de l'Est à cause d'une panne d'électricité. La SNCF anticipe par ailleurs des pannes de climatisation dans ses trains intercités de 71 trains supprimés jusqu'à lundi sur le Paris-Toulouse, le Paris-Clermont et le Bordeaux-Marseille. Et malgré ces hautes températures, il faudra bien garder ses vêtements à Narbonne. Pas question de se promener torse nu ou en maillot de bain. C'est passible de 150 euros d'amende selon un arrêté pris par la mairie. Et les habitants sont plutôt d'accord, Martin Juret.
Dans les rues de Narbonne, les habitants plébiscitent cet arrêté.
Pour moi, c'est du respect, du savoir-vivre envers tout le monde. Il faut avoir des tenues adéquates et c'est normal.
C'est vrai que sinon, après, c'est la foire, on ferait n'importe quoi.
Et ce n'est pas Alexandra, gérante d'une boutique de prêt-à-porter, qui dira le contraire.
Il y en a pas mal qui arrivent dans le magasin en maillot, avec juste le haut du maillot, ou pieds nus. Ça nous est déjà arrivé de voir des gens pieds nus devant le magasin.
Pour Alexandre Sylvestre, président du syndicat des restaurateurs, cette mesure était nécessaire.
On est très content de cet arrêté municipal. Si la mairie en plus s'en charge, nous, ça nous fait du bien parce que ça nous évite de faire la police et de rappeler à l'ordre quand c'est vraiment limite.
C'est la police municipale qui est chargée de faire respecter l'arrêté. Le maire de Narbonne, Bertrand Malquier, rappelle que les agents doivent demander par exemple à celui qui se balade torse nu de mettre un vêtement.
S'il n'en a pas aussi
refuse de remettre son t-shirt, on passe de la pédagogie à la sanction. Et là, on dresse le procès verbal avec une amende qui peut aller jusqu'à 150 euros.
Depuis le début de la semaine, une personne a été verbalisée. Il y en avait eu 25 l'an dernier.
Reportage de Martin Juret avec Jean-Wilfried Forquès. Il est 7h33. Les premiers éléments de l'autopsie de Liana ont été dévoilés hier. La collégienne a été victime d'un viol. C'était particulièrement redouté depuis la découverte de son corps il y a 2 semaines dans un silo à grains près de Fleurance dans le Gers. L'ADN de Jérôme Barella a été retrouvé sur des zones intimes de Liana. Les causes de sa mort ne sont pas encore déterminées, mais des ecchymoses ont été retrouvées sur son corps, notamment sur sa tempe. La petite fille a également été bâillonné par du scotch. Réaction des parents par la voix de leur avocat. Leur colère n'a d'égal que leur dégoût, dit-il. Réaction aussi d'Emmanuel Macron, alors que le suspect était visé par plusieurs plaintes.
Il faut mesurer aussi qu'on demande à nos forces de plus en plus et qu'il y avait un continent caché. On a libéré la parole. Moi, je voudrais simplement vous rappeler que quand je suis élu, dans nos prisons, 7% des gens étaient détenus pour des violences sexuelles et sexistes. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus. Donc ça veut dire que oui, il y a encore des dossiers en souffrance. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont été arrêtés. On vit tous devant un sentiment de révolte face à ce qui peut être fait, parce que toucher un enfant, c'est la pire des choses. On ne doit jamais s'habituer. On doit toujours s'indigner. Mais cette indignation ne doit pas signifier l'impuissance, et elle ne doit pas signifier la vindicte.
Emmanuel Macron qui disait également hier soir ne pas croire que la guerre en Iran soit totalement terminée. Eh bien, les négociations qui devaient démarrer ce matin en Suisse après la signature de l'accord avec les États-Unis sont reportées, annonce le gouvernement suisse.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
La Coupe du Monde qui a déjà son premier qualifié pour les 16e de finale. C'est le Mexique qui décroche son ticket après sa victoire 1-0 contre la Corée du Sud. Cette nuit, un autre pays hôte, le Canada, a étrié le Qatar. Victoire 6-0. Un match nul un partout entre la République tchèque et l'Afrique du Sud. Et puis la Suisse a renversé la Bosnie 4-1. Cette nuit, deuxième match du Brésil contre Haïti. Toujours sans Neymar, hein, qui se remet de sa blessure au mollet. En rugby, les demi-finales de Top 14, ça commence ce week-end à Marseille. Toulouse Racing pour ouvrir le bal, les Toulousains premiers de la phase régulière. Pourtant, ils ne sont pas forcément favoris, Romain Asselin.
Oui, la dynamique interpelle. 2 victoires, 3 défaites depuis fin avril. Il y a aussi cette élimination dès les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Le forfait ce soir de l'arrière international Thomas Ramos, si souvent décisif en phase finale. Mais tout cela n'empêche pas le manager toulousain Hugo Mola de garder la tête froide.
Je vois que l'inquiétude plane autour du club, de nous, de la performance. C'est la première fois que, en l'occurrence, on est capable d'aller mettre des performances assez marquantes à l'extérieur. Donc, continuez de douter de nous.
Son homologue du Racing, Patrice Collazo, lui, ne se laisse pas bercé par cette petite musique qui dit Toulouse moins fort que d'habitude.
Ça, c'est vous qui l'avez dit, hein. C'est les médias qui ont dit ça. Si on comptabilise tout, c'est quand même des fossoyeurs, hein, quand même. Donc bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont au rendez-vous des phases finales chaque année. Ils ont un taux de réussite sur les finales de 100%. Quand ils jouent une finale, ils la perdent jamais.
Un Racing d'autant plus méfiant que Toulouse retrouve enfin sa star, Antoine Dupont. Il est titulaire après 6 semaines d'absence. François Cros, son coéquipier.
Ben Antoine est un de nos meilleurs joueurs, donc forcément c'est toujours un avantage quand il peut jouer avec nous. Et on espère qu'il fera encore une belle prestation, pardon.
Il y a 3 ans, Toulouse avait corrigé le Racing en demi-finale. Victoire 41-14.
Toulouse Racing, coup d'envoi ce soir 21h05, ce sera à vivre sur RMC.
Et puis le Quintet, Vincennes ce soir 20h15.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori. Le numéro 6, Yenis de Barbrey, l'outsider. C'est le numéro 18, Iggy Rock, le 6 et le 18.
C'était le journal de Clara Gabi et puis il y a le Quintet, mais il y a aussi la prime de match. Mais oui, parce que c'est le moment, vous l'entendez. Tous ces euros qui défilent. C'est le moment de jouer pour gagner votre prime de match sur RMC. Figurez-vous qu'hier, la prime de match, elle était de 67 500 euros. Et elle a été gagnée. Anthony a gagné 67 500 euros. Il avait été tiré au sort pendant le Moscato Show. Dès lundi, c'est reparti. Nouvelle prime de match. Et donc, vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour remporter la prime de match. Vous envoyez but au 7-32-16. But au 7-32-16, c'est le moment, c'est maintenant, il est 7h38 et vous avez 10 minutes pour vous inscrire.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les oraux du bac reportés pour 4500 terminales dans l'académie de Poitiers. Des écoles et des collèges qui ferment ou qui incitent les parents à garder leurs enfants à la maison. Coup de chaud sur l'éducation nationale. Bonjour Jean-Rémy Girard. Vous êtes le représentant des profs. La France n'est pas au niveau face aux vagues de chaleur à répétition. Voilà ce que vous nous dites dans un instant. Et puis n'hésitez pas, vous aussi qui nous écoutez, vous êtes peut-être professeur ou tout simplement parent. Appelez-nous pour nous dire comment ça se passe chez vous. Le 32-16 vous est ouvert. 7h38.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h42 et c'est 40 degrés qui sont attendus aujourd'hui. L'école suffoque. Bonjour Jean-Rémy Girard, vous êtes le président du SNALC, le syndicat des enseignants de la petite section jusqu'au lycée. Des pics de chaleur historiques à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la semaine prochaine. Les écoles et les collèges tentent de s'adapter, certains ferment, les oraux du bac sont décalés dans l'académie de Poitiers. Est-ce qu'on a suffisamment anticipé ou est-ce qu'on bricole ?
On bricole, Apolline de Malherbe, puisque l'an dernier, on avait à peu près la même situation, à peu près à la même époque. On voit qu'un an après, il ne s'est rien passé de nouveau. On est dans les mêmes conditions, il fait les mêmes températures, il fait même plus chaud dans nos salles de classe. Et on n'a pas de solution très concrète, à part effectivement de devoir décaler, reporter, fermer, parce que notre bâti scolaire n'est pas adapté à ces chaleurs.
Le bâti scolaire toujours pas adapté, et ça j'ai l'impression effectivement que année après année, à chaque fois on dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais les chantiers ne sont pas lancés. Il y a un guide ministériel qui vous recommande de boire de l'eau quand il fait chaud, et puis on a l'impression que chaque établissement s'adapte, d'abord parce qu'ils n'ont pas la même tutelle. Pour les écoles c'est la mairie qui décide, pour les collèges c'est le préfet. Est-ce qu'il y a un manque de lisibilité chez vous ?
Il y a un manque de lisibilité, et puis il y a surtout un problème de prise de décision et aussi de financement. C'est-à-dire que nous, notre employeur, c'est l'État qui doit veiller notamment à notre santé, à notre sécurité.
Quand vous dites nous, c'est les professeurs.
Ce sont les collectivités locales.
Voilà.
Je parle, de professeurs.
Les profs, c'est l'État, le bâti, c'est la collectivité locale.
C'est ça. Donc ça fait des jeux de ping-pong absolument merveilleux où les uns disent on n'a pas suffisamment d'argent, l'autre dit oui mais c'est pas notre responsabilité et finalement il se passe rien.
Certaines décisions ont été préfectorales, hein. C'est le cas par exemple pour ces oraux du bac français qui ont été décalés dans l'académie de Poitiers. Et puis on a l'impression que chaque école s'adapte au cas par cas, conseille aux parents s'ils le peuvent de venir chercher leurs enfants l'après-midi, notamment pour les deux premiers jours de la semaine prochaine. On a entendu ça dans un certain nombre d'écoles. Mais c'est vraiment, j'allais dire, non seulement au cas par cas, mais surtout en fonction de ce que peuvent faire les gens, quoi.
Oui, c'est en fonction de ce que peuvent faire les gens, c'est en fonction des prises de décision des préfets, éventuellement des maires à l'école primaire, parfois même des chefs d'établissement en collège et en lycée, mais en réalité, on se rend bien compte qu'on n'est pas dimensionné pour gérer cette vague de chaleur et que d'ailleurs renvoyer les élèves chez eux, mais les parents travaillent, donc c'est pas chez eux la plupart du temps, c'est pas une solution viable. Or, là, on n'est pas dans quelque chose d'exceptionnel. Hein, à l'avenir, ça va se reproduire très très régulièrement, les vagues de chaleur que l'on connaît. Donc, il va falloir à un moment réellement se dire, là, il faut changer structurellement le fonctionnement de l'école, les locaux, la climatisation.
Avoir un plan,
moi, j'ai des réunions au ministère, les salles sont climatisées.
C'est ce que j'allais vous dire.
Pourquoi, les collègues,
pourquoi la clim, c'est une des questions que je poserai d'ailleurs à Jean-Marc Jancovici, qui sera mon invité à 8h30, mais au fond, les transports, pour la plupart, sont climatisés, les ministères sont climatisés, les musées sont climatisés, un certain nombre de bureaux sont climatisés, et pourquoi chez effectivement les particuliers, ce serait une telle souffrance. Souffrance d'ailleurs que les enfants vivent dans leur corps. Vous avez entendu une auditrice ce matin, Victor ?
Ce matin, c'est Julie qui nous a appelé au 32-16 pour nous dire qu'hier, elle avait été contrainte d'aller chercher son enfant en primaire. Pourquoi ? Parce qu'il a vomi, parce qu'il a eu un coup de chaud. Et ça a été pas que le cas pour lui, mais aussi pour un de ses camarades. Et elle nous disait, le dicteur n'a pas reçu de directive.
Alors, il y a évidemment ceux qui travaillent en plein air, il y a les plus jeunes, et puis il y a ceux qui travaillent en restauration. Jenny nous appelle depuis l'Hérault. Bonjour Jenny.
Oui, bonjour.
Jenny, vous êtes chef de cuisine. Oui. Ça va, vous tenez le coup ?
Ah ben, il va commencer à faire très chaud. L'an dernier, pendant la canicule, on avait mesuré 56 degrés auprès des plants de chat dans la cuisine.
Donc, 56 degrés auprès des plants de chat dans la cuisine. Comment vous vous adaptez, Jenny? Comment vous avez réussi à survivre?
Eh ben, on boit beaucoup d'eau et puis on se met des torchons au frais, mouillés pour se rafraîchir, mais c'est très très chaud.
Et il n'y a pas, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de moyen de toute façon de baisser la température.
Non, chez nous, non, les ventilateurs c'est interdit et puis les clims, non, c'est pas trop possible.
C'est pas trop possible. Vous en parlez avec vos collègues?
Je suis chef de mon restaurant, donc on n'a pas la possibilité d'installer des clims, c'est ouvert, voilà.
C'est dur. Franchement, oui. On pense à vous, Jenny. Vous avez raison. Il faut aussi penser à ceux qui travaillent en intérieur. On parlait depuis ce matin de ceux qui travaillent en extérieur, mais ceux qui travaillent en intérieur. Je parlais aussi de ceux qui travaillent dans des rôtisseries ou sur les marchés. Merci Jenny et bon courage à vous. Il est 7h47 et je suis entourée parce qu'ils sont rentrés dans ce studio. Cécile Duflo, la voix de gauche. Bonjour Cécile.
Bonjour Pauline.
Charles Consigny, la voix de droite. Bonjour Charles.
Bonjour.
Et cette question, est-ce qu'on peut faire un meeting concert le soir de la fête de la musique, ce concert militant d'LFI qui devait avoir lieu place de la République, qui a été interdit par la préfecture. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux?
On le dit maintenant.
Non, mais un mot.
Je soutiens pleinement la préfecture dans cette démarche pleine de sagesse.
Et vous, Cécile?
Ils ont tort.
Ils ont
évidemment tort. L'art, c'est la provocation.
Ça promet ce débat.
Et l'arrêt politique.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h49, dans un instant le débat du vendredi, mais d'abord le bonus. Victor, on se réveille ce matin avec un nouveau titre d'Angèle.
Et au cas où ce ne serait pas assez clair, ce titre s'appelle « Dis-le ». Vous allez vite le retenir parce que la chanteuse belge le répète 83 fois dans le morceau.
Dis-le que tu te sens seul, dis-le que t'es fatigué, dis-le pourquoi t'es pas bien, dis-le pourquoi c'est pas rien, dis-le plus fort.
Alors oui, c'est une chanson, mais c'est aussi un appel à s'affirmer, un appel à libérer sa parole. Ça nous rappelle par exemple son titre « Balance ton quoi ». Cette chanson-là, elle a des sonorités électro, c'est sa nouvelle direction. Comme dans ce titre, What You Want, en collaboration avec le groupe Justice, autre titre dévoilé il y a quelques semaines et autre extrait d'un futur album qui sortira à la rentrée.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
Voix de droite, Charles Consigny. Voix de gauche, Cécile Duflo. Bonjour à tous les deux. Et on en débat comme chaque vendredi, la droite et la gauche. Avec ce matin cette question. La justice qui doit étudier un recours déposé par la France Insoumise. Les Insoumis qui contestent l'annulation par la préfecture de police de Paris de leur concert militant prévu dimanche pour la fête de la musique. Un concert qui pourrait créer, je cite, des troubles à l'ordre public. Voilà l'un des arguments de la préfecture. Fallait-il interdire ce concert, Charles?
Ce que dit la préfecture, c'est que ce concert de la France Insoumise est susceptible de générer des violences eu égard aux personnes qui viendront y assister, etc. Et la préfecture semble considérer la France Insoumise comme un parti générateur de violences. J'avoue que je trouve ça assez amusant, à vrai dire. Je crains qu'il ne soit de bonne foi. C'est-à-dire, je crains que la préfecture ne fasse pas ça pour des raisons politiques, mais bien pour des raisons d'ordre public, parce que elle a peur de quelque chose qui dégénérerait place de la République. Et donc moi, qui par ailleurs dans l'ensemble pas pour
plutôt
tout
libéral. Mais...
non moi qui par ailleurs déteste la fête de la musique, je soutiens la préfecture dans cette démarche.
Je vois que ça ne vous surprend pas.
C'est
votre dernier
que la
argument,
Cécile. Interdise la fête de la musique.
Oui, à peu de choses près, oui.
Voilà, donc évidemment.
Oui.
Je pense qu'il y a plusieurs problèmes dans cette décision. D'abord un a priori extrêmement fort avec des soi-disant artistes qui en plus sont même pas là. Pour tout dire, j'avais pas entendu parler de ce concert avant que la préfecture décide de l'interdire, sur des a priori qui sont quand même très problématiques, d'autant que, pour le coup, je suis dans l'obligation de constater que c'est derrière Charles l'image que LFI a réuni des milliers et des milliers de personnes sans qu'il se passe aucun événement problématique. Donc, c'est très gênant. Ensuite, ce qui est encore plus gênant, c'est que dans la communication autour de ça, on met en cause les paroles des artistes qui seraient susceptibles de venir. Et ça, alors là, on va à l'encontre complètement même de l'esprit de l'art, de l'histoire de la France, de l'histoire d'ailleurs de l'art comme outil de contestation. Donc, que des artistes, dans les paroles de leurs chansons, mettent en cause la police, c'est vieux comme la France. Et je pense que parmi les chansons les plus dures, j'ai repris les paroles, hein, en voyant ces braves Pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée. C'est Brassens et c'est 1952. Donc c'est l'histoire de l'art. Et ça veut pas dire d'ailleurs, parce qu'on les chante, qu'on pense vraiment ni ce qu'on dit, ni qu'on va le faire, pas du tout. Enfin, c'est une très mauvaise conception. Et par ailleurs, je trouve que la fête de la musique est un authentique patrimoine de la nation française, d'ailleurs qui s'est exportée, et il y a plein d'étrangers qui viennent vivre la fête de la musique, et donc c'est une bonne chose de la laisser vivre dans toutes ses spécificités, et surtout pas d'interdire ce concert.
Ça veut dire que c'est en train de devenir politique, la fête de la musique, ou ça l'était déjà peut-être, Charles ?
Ça l'était déjà. Non, je ne sais pas si c'était vraiment politique. C'est en vrai, je dis ça un peu pour la plaisanterie. Je pense que c'est une fête plutôt sympathique dans laquelle il y a souvent d'authentiques artistes qui font des choses de bonne qualité. Il y a pas de problème. Il y a notamment des DJ qui arrivent à réunir beaucoup de monde dans les rues de Paris, etc. C'est pas.
C'est pas le pire.
Je préfère la fête de la musique à la Nuit Blanche, par exemple. De la part de la France Insoumise, oui. Puis je vois que si vous voulez, la France Insoumise, il ne faut pas se leurrer. Ils sont un parti extrémiste parce qu'ils sont tout le temps sur une espèce d'ambiguïté. Vous savez, ça, c'est le propre des extrêmes, droite comme gauche. Ils sont en taquia, en dissimulation. Ils invitent Médine, comme si c'était innocent d'inviter Médine. Médine est un rappeur extrêmement controversé, qui a à son actif lui aussi beaucoup d'appels à la haine, beaucoup de. Ils auraient pu inviter Angèle, on vient de l'entendre. Comme par hasard, ils invitent Médine. Bon, ils invitent Assa Traoré. Moi, je suis avocat, j'aimerais que cette affaire Traoré, elle soit jugée depuis très longtemps, mais elle n'est pas porteuse de beaucoup d'apaisement depuis quelques années. Donc, ils invitent deux personnes dont ils savent très bien que ça va occasionner quelque chose d'un peu violent, en fait, si vous voulez. Et donc, je pense que il faut pas se leurrer quant à leur démarche. Je crois qu'ils cherchent, et d'ailleurs, ils l'ont dit même sur l'histoire, en une seconde, ils ont dit que si le RN gagnait, il y aurait l'insurrection, et ils semblent la souhaiter, etc. Donc, ils sont quand même dans quelque chose d'un peu bizarre.
Au-delà de cette dissimulation, comme vous le dites, la question des violences qui sont évoquées par la préfecture de police de Paris, non pas forcément place de la République, mais plus globalement, disant qu'ils vont devoir être extrêmement mobilisés parce que la fête de la violence, et c'est une des notes que l'on a détaillées ce matin, la fête de la musique est en train de se transformer en un prétexte à la violence pour certains. Ils parlent d'une délinquance d'opportunité.
Alors, on a déjà eu ce débat ici sur comment pouvoir gérer des foules festives.
On en avait parlé.
Vrai sujet.
Pour le PSG.
Autour du foot. Mais ça existe. On ouvre la saison des férias dans le sud-ouest. Il y a des gigantesques fêtes avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes. C'est un métier. Je dis pas que c'est facile, hein, le rôle de policier dans ce genre de situation avec des foules qui sont excités par la fête, avec souvent de l'alcoolisation, ça n'est pas simple. C'est pour ça que je dis, c'est un métier, et je pense un métier très respectable. Mais c'est le savoir-faire de la police que de gérer ça. En revanche, sur le fait que la fête de la musique soit politique, l'histoire même de la fête de la musique est politique, ça a été rappelé
par Arthur Chevalier.
C'est une création de la gauche, c'est une création de Jack Lang. Et moi, je vais vous dire, j'ai un grand souvenir de la première fête de la musique, 1982, le Montreux-Fautionne, le confluent de la Seine et de Lyon, les deux ponts sont fermés, tout le monde danse sur le pont. C'est une réappropriation de la ville et ça se vit à Paris. Donc c'est vraiment un moment festif. Et donc de dire que les moments festifs, en fait, ils sont plus possibles, je le dis, je pense qu'il y a un problème justement d'anticipation et de gestion. Et notamment quand on dit et qu'on interdit un événement, on sait qu'on crée de la tension. Et là, c'est pour ça que je trouve que les arguments qui sont avancés et la méthode sont vraiment pas les bons. Charles.
Bon, là, ils interdisent pas la fête de la musique, ils interdisent en gros un meeting politique le soir de la fête de la musique. C'est pas tout à fait la même chose.
Mais c'est où la limite
C'est où la limite? Et ensuite dire qu'on n'autorise plus les fêtes, etc. À Paris, il n'y a plus que ça, des fêtes. C'est-à-dire que la ville, je suis désolé, est bloquée un jour sur deux parce qu'il y a une fête à la con qui a été décrétée par un sous-adjoint de la mairie de Paris qui a dit on va faire la fête de ceci, la fête de cela, nani, nana. Tout est prétexte à bloquer toute la circulation. Moi, je trouve que il y a des choses tout ne se vaut pas. La fête de la musique, c'est pas trop mal.
Allez, finalement, il aura fini par le dire. Allez,
mais c'est quand même le champion du Dufour.
C'est la seule fois de toute la saison que j'ai concédé un bon point à la gauche.
Cécile Duflo et Charles Consigny, tous les vendredis matin. Il est 7h57 sur RMC et RMC Story. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Il y aura aussi l'économie. On va parler argent et on va parler logement avec vous, Manu.
Et réunion de copropriétaires.
Oh là là, ça me fait vraiment envie. Allez, à tout de suite, 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Excellente journée à tous. Il est 8h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La France donc qui s'adapte à cette canicule. Horaires décalés, écoles fermées, épreuves du bac repoussées, fêtes de la musique annulées, des trains supprimés. On va faire un point complet dans ce journal. Nous serons dans le Gers également pour revenir sur ce tournant dans l'affaire Liana. On sait depuis hier soir que la jeune fille a été violée. L'ADN du suspect retrouvé sur son corps. Et nous serons également aux États-Unis où les Bleus ont pu profiter de leur soirée hier en pleine Coupe du Monde.
Météo France prévient ce matin que l'épisode de chaleur est bien parti pour durer.
Oui, alors dans son tout dernier bulletin, là, ce matin, les mots employés donnent quand même une idée de ce qui nous attend, puisqu'on parle désormais d'un épisode étendu, durable et intense, avec d'autres départements qui basculeront rapidement en vigilance orange. Il y a déjà la moitié de la France qui est en alerte. Il faut s'attendre à un pic, nous dit-on, caniculaire remarquable entre dimanche et mardi. On parlait de dimanche et lundi jusque-là, ça fait donc une journée de plus, avec des pointes à 40 degrés. On en a déjà eu hier, c'est rare pour un mois de juin. La dernière fois, c'était en 2003, l'année de la canicule qui a marqué tous les esprits. Et donc, on est obligé de s'adapter en se réveillant ou en allant plutôt au travail. Caroline Renaud, vous confirmez en direct de Dijon ce matin pour RMC.
Oui, dans les rues, les joggeurs sont sortis plus tôt que d'habitude, tout comme les promeneurs. C'est le cas de Gérald, de 75 ans. Il s'est levé une demi-heure plus tôt avant de passer le reste de la journée chez lui, volet fermé.
Je me suis dit que je serais bien le matin, il fait doux, l'air est frais sur mes petits bras, donc je suis ravi. Et la fraîcheur du matin comme ça, elle est très agréable. J'ai été boire aussi un café, dehors c'est fantastique.
D'autant que la nuit a été particulièrement chaude, difficile parfois de trouver le sommeil. Laure, elle, n'a dormi qu'une heure, sensation d'étouffée chez elle sous 26 degrés. Alors elle est partie plus tôt au bureau ce matin avec un objectif.
Essayer d'ouvrir toutes les fenêtres du cabinet et faire un petit courant d'air avant le pic de la chaleur qui va arriver vers 9h30 dans nos locaux. Là, je vais arriver au cabinet, j'ai déjà au moins 28.
Et elle risque de ne pas en profiter longtemps car les températures vont encore grimper dans les prochaines heures. Jusqu'à 34 degrés sont attendus cet après-midi ici à Dijon.
Il y a tout un tas d'adaptations, comme chez vous à Dijon, Caroline Renaud en direct ce matin pour RMC. Les écoles, par exemple, fermées dès cet après-midi à Sens, où il fera certainement le plus chaud aujourd'hui. Ce sera le cas lundi après-midi à Tours, en plein pic de chaleur. Les oraux du bac reportés la semaine prochaine dans l'académie de Poitiers. Avant ça, de nouvelles villes, comme Brive et Nanterre, annulent ou repensent leur fête de la musique dimanche. Le SAMU déploiera d'ailleurs des renforts à Paris pour cette fête de la musique. Et la SNCF, après une soirée de galère dans les transports parisiens, la faute à une panne électrique Gare de l'Est. Eh bien, la SNCF a donc annulé 71 trains jusqu'à lundi sur ses lignes Paris-Clermont, Paris-Toulouse, Bordeaux-Marseille aussi, qui passe quand même par quatre des plus grandes villes de France, de peur que les trains donc tombent en panne à cause de cette chaleur, Lucas Laubert.
Oui, sur les trois lignes intercités concernées, ce sont des voitures corail qui circulent. Elles datent des années 70-80. À cette époque, les trains n'étaient pas conçus pour supporter de tels pics de chaleur. C'est donc pour éviter de potentielles défaillances techniques que la SNCF a décidé d'annuler ces trains, explique Arnaud Aimé, spécialiste des transports au cabinet SIA.
Le risque le plus grave, c'est vraiment sur les systèmes de climatisation. Eh bien, ils peuvent défaillir quand ils sont très largement soumis, que la température dépasse les 33 degrés. C'est aussi les systèmes de ventilation pour refroidir le moteur, refroidir les armoires électriques. Le risque de panne peut augmenter.
Selon le spécialiste, le reste du réseau, notamment pour les TGV, est beaucoup plus résilient face à la chaleur. Pas d'annulation préventive donc, mais des défaillances restent toujours possibles sur les voies ferrées. Les armoires électriques, les rails, les caténaires subissent aussi la canicule. Les voyageurs ne sont donc pas à l'abri de retards ou d'annulations de dernière minute.
À 8h04 sur RMC, la ville de Fleurance, dans le Gers, se réveille sous le choc. On vous le raconte depuis ce matin, au lendemain de l'annonce des résultats de l'autopsie du corps de la jeune Liana, qui a donc été violée et même bâillonnée, de l'ADN du suspect, Jérôme Barella, découvert sur son corps. Ces résultats étaient très attendus. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes en direct de cette ville ce matin pour RMC, et c'est clairement un tournant dans l'enquête.
Oui, c'est ça. Jusqu'à présent, Jérôme Barella a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Mais cette autopsie pourrait être un coup d'arrêt à sa stratégie. L'ADN, vous le disiez, a parlé et son ADN a été retrouvé sur le corps de la fillette. Jusqu'à présent, on le rappelle, l'information judiciaire avait été ouverte pour enlèvement, séquestration et meurtre. Le parquet d'Agen pourrait y rajouter donc la notion de viol. La justice et les enquêteurs vont tenter dans les prochains jours, les prochaines semaines, de se servir de cette autopsie pour obtenir des aveux du suspect numéro 1. Un juge d'instruction à Agen va entendre certainement prochainement Jérôme Barella. Il faut qu'il parle, il faut qu'il raconte tout, me dit ici sur place ce matin un habitant de la commune de Fleurance. On le rappelle, Jérôme Barella est toujours placé à l'isolement à la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan.
L'accord États-Unis-Iran va-t-il déjà tomber à l'eau, alors qu'Emmanuel Macron se méfie ouvertement du sort de la guerre hier soir lors de son interview à la télévision? On apprend ce matin que les négociations prévues en Suisse aujourd'hui, et bien que ces négociations sont reportées. On ne sait pas quand, aucune raison officielle n'est donnée à ce report qui intervient après le décalage du report de la venue du vice-président américain J.D. Vance. Dans ce contexte, et alors que le feu devait cesser sur tous les fronts, Israël dit mener de nouvelles frappes visant le Hezbollah dans le sud du Liban ce matin. Donald Trump dit que maintenant il veut se pencher sur le dossier de la Corée du Nord. Et tout ça en pleine Coupe du Monde de football. L'équipe d'Iran annonce d'ailleurs ce matin qu'elle va porter plainte auprès de la FIFA en raison des restrictions qui lui sont imposées.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors les pays hautes ont brillé cette nuit. Le Mexique, premier qualifié pour les 16e de finale en battant la Corée du Sud 1-0. Le carton aussi du Canada, 6-0 contre le Qatar. On verra si les États-Unis feront aussi bien ce soir à 21h sur RMC contre l'Australie avant de revoir le Brésil et le Maroc la nuit prochaine. Pendant ce temps, nos Bleus, ils s'entraînent à Boston. On est à 3 jours du prochain match contre l'Irak, ce sera lundi soir. Il y a une longue pause là, Florent Germain, vous êtes au plus près des équipes de France pour RMC et vous nous dites que les Bleus ont même le droit de profiter de leur soirée.
Oui, petite soirée décompression au cœur de la compétition. Didier Deschamps avait donc donné quartier libre à ses joueurs pour les récompenser des efforts fournis contre le Sénégal. Le défenseur Lucas Hernandez a dîné par exemple dans un restaurant italien avec sa compagne. Le latéral Malo Gusto a lui opté pour le plaisir d'une petite balade avec ses coéquipiers Désiré Doué et Bradley Barcola.
J'étais avec Désiré et Bradley, on s'est baladé un petit peu dans Boston en vélo, on a fait un petit peu le tour, c'était sympa.
Des moments rares en pleine Coupe du Monde dans une ville comme Boston, où à part certaines stars comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé, les footballeurs peuvent encore se balader incognito, appréciable pour le jeune Magnès Atliouche.
On s'est un petit peu baladé avec quelques joueurs, c'était cool, on n'a pas encore eu le temps dans cette ville de Boston de pouvoir découvrir un petit peu. Et je pense que d'avoir une soirée de libre, de pouvoir visiter un petit peu, faire un petit tour, ça fait du bien aussi de respirer.
En famille ou avec des amis, certains ont même prolongé la soirée, mais cela s'est fait sans aucun excès. Didier Deschamps avait juste fixé ses conditions. Tout le monde dort à l'hôtel, pas de petit déjeuner obligatoire et rendez-vous à midi en salle de réunion. Une décision du sélectionneur et une petite parenthèse que les Bleus ont, paraît-il, grandement appréciée.
Alors il y a aussi les Bleus du rugby qui jouent ce soir, c'est un match amical qui comptera même pas comme une sélection pour les joueurs concernés, mais quand même une belle affiche contre l'Angleterre, ça se passera à Vannes. Et puis dans la foulée, à 21h05, on passera aux choses sérieuses avec la première demi-finale de Top 14 à Marseille, entre Toulouse et le Racing. Ramos forfait, Dupont titulaire côté toulousain. Face à la chaleur, il y a la Ligue Nationale de Rugby qui demande aux supporters présents au Vélodrome ce soir de porter casquette et chapeau, et aussi de bien s'hydrater. Mais ça, en général, on sait faire en rugby.
C'était le journal de Quentin Vinet. Tout de suite, l'économie avec Manu Le Chypre.
RMC, Apolline Matin.
Le Chypre d'affaires.
Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel, face à la multiplication des épisodes caniculaires, le gouvernement dévoile son plan d'action pour renforcer l'adaptation du pays aux vagues de chaleur.
Et oui, les tendances sont implacables. La France a connu 4 fois plus de jours de canicule au cours de la dernière décennie que dans les années 80. Et un logement sur 3 est aujourd'hui considéré comme une bouilloire thermique. Si vous regardez même les critères du diagnostic de performance énergétique, vous avez 9 logements sur 10 qui ne sont pas parfaitement adaptés à la chaleur. Alors ce plan Endurance, il vise en fait à sortir de la logique du tout ou rien. Hein, on a les moyens, on a les aides, du coup on lance un grand chantier de rénovation. Non, là l'idée c'est qu'on entre dans une logique de parcours de rénovation et d'adaptation. Alors il y a beaucoup de mesures, hein, simplification des aides aux particuliers, isolation dans les logements sociaux et les écoles, le verdissement des villes, le développement de la géothermie, des réseaux de froid, bref, un large panel de mesures.
Pour les particuliers, c'est quoi les mesures phares ?
Alors la mesure la plus spectaculaire, si vous aimez par exemple les réunions de copropriété.
Bah, passion, bah, évidemment.
Il y a quand même...
que tout le monde a une passion réunion, de toute façon, déjà. Et puis de copropriété, encore plus.
Il y a un logement sur trois qui est en copropriété aujourd'hui. Et donc, la mesure la plus spectaculaire, c'est de permettre aux copropriétés de voter à la majorité simple des travaux d'ampleur et de rénovation et de faire financer ces travaux par un prêt collectif à la propriété. Ça concerne notamment l'installation de stores, de volets, les brasseurs d'air. Bah, ça veut dire que maintenant, il suffit qu'il y ait plus de gens pour que de gens contre à l'Assemblée des copropriétaires pour que la mesure des travaux soit
votée. Mais on met pas la clim là-dedans.
On connaît tous.
C'est toujours pareil, on nous parle d'installation de stores, de volets, de brasseurs d'air. Pardon, je sens que je vous déstabilise.
Alors, non.
Mais Emmanuel, c'est quand même des questions que je vais poser à Jean-Marc Jancovici tout à l'heure.
Ouais.
Pourquoi ?
Parce que là, il s'agit uniquement de mesures d'adaptation qui rentreront dans le cadre du prêt collectif. Après, voilà, là c'est le prêt collectif à la copro avantageux si vous voulez faire ces travaux-là. Après, libre à vous d'installer une clim si vous voulez. Et là, vous retombez sur les aides qui existent déjà, type MaPrimeRénov, etc. Et puis l'autre mesure phare, c'est la TVA sur les pompes à chaleur RR qui passera à 5,5 contre 20 aujourd'hui pour la pose et 10 pour l'équipement. Vous avez bien compris que la priorité, ça n'est pas de débloquer des fonds pour de nouvelles aides, mais c'est de mobiliser plus intensément les aides existantes, comme MaPrimeRénov notamment. Juste pour rappeler un ordre de grandeur, MaPrimeRénov, c'est 3,6 milliards d'euros. Le fonds vert qui concerne les collectivités locales, c'est 1,2. Or, les rapports comme celui de Jean Pisani, Ferry et Salma Mahfouz nous disent qu'il faut 18 milliards, rien que pour le logement, chaque année, si on veut être au rendez-vous de la transition écologique.
Chaque année. Allez, les chiffres du jour, est-ce que ça continue à baisser ?
Mais oui, le gazole, 1,93€, moins 9 centimes en une semaine. Nous sommes peut-être à la veille d'un jour historique au cours duquel les prix du gazole vont passer en dessous les prix du sans-plomb 95, 1,92.
À nouveau, voilà.
Le sans-plomb 95 qui lui baisse plus doucement. Le pétrole, le gaz, bah, il y a eu une petite euphorie avec la signature du traité. Bon là, il faut un peu digérer ces bonnes nouvelles. Donc pour le moment, les marchés, finalement, après l'euphorie, se montrent prudents. Donc les prix sont stables. 79,7$ le baril et 41€ le mégawattheure pour le gaz.
Merci Emmanuel. Il est 8h11 sur RMC. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint pour nous faire rire à 8h30. Et ben, je poursuis évidemment sur ce qu'on se disait à l'instant avec Emmanuel Lechypre, la question du climat. Et mon invité, ce sera Jean-Marc Jancovici. Comment adapter la France aux vagues de chaleur à répétition ? Il alerte depuis des années. Il a des propositions très concrètes, vous l'entendrez. Rendez-vous donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Juste après, il y aura le choix de la rédaction. Avec la canicule, le risque d'incendie explose. Tous les conseils et les sanctions en cas de jet de mégots. C'est ce que réclame un député, on l'entendra. Il y aura aussi toutes les nouvelles du Mondial. Rendez-vous à 8h50 sur RMC. Pour l'heure, il est 8h12. Restez bien avec nous.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Salut Arnaud. Arnaud de Manche est avec nous.
Bonjour à tous. Tiens, alors, les amis, Apo, on ne parle jamais de culture dans cette rubrique entre nous. Mais ce week-end au cinéma, je vous conseille un truc. Vous pouvez aller voir Toy Story. L'histoire, c'est Woody et ses amis qui sont bien embêtés parce qu'une méchante tablette tactile empêche les enfants de profiter de la vraie vie. Elle les accapare trop. Et après Toy Story, vous pouvez regarder RMC Story.
Voilà.
Où tous les matins, un méchant réveil sonne à 2h du matin et empêche Apolline de profiter de la vraie vie. Et aussi Victor, et aussi Élise, et aussi...
C'est
des stories affreuses. Mais bon, allez, on va quand même fêter l'événement du jour, Apolline. Aujourd'hui, c'est la paix. On se tient tous par la main, c'est la fin de la guerre. L'Iran et les États-Unis signent leur protocole d'accord en Suisse, le pays de la fondue, le pays du chocolat. Et quoi de mieux qu'une fondue et du chocolat pour faire la paix ? Trump, il va être de bonne humeur. Il va faire « Oh, celui qui fait tomber son bout de pain, il est privé de dessert. Oh, moche tabac, tu as fait tomber. Bah oui, mais j'ai pas de bras et t'as bombardé ma maison. Bah pas de bras, pas de chocolat. Ouais, c'est la joie. Le trafic maritime va-t-il reprendre dans le détroit d'Ormuz ? Il va falloir être patient. Hein. Il y a des mines dans le détroit. Oui. Donc avant d'envoyer les pétroliers, Moi, j'enverrais un bateau dont la cargaison n'a pas une grande valeur. Vous voyez, une croisière Star 80 avec Jean-Luc Lahaye et Patrick Bruel. Au niveau valeur, ils sont assez légers.
On les met en éclaireur.
On les met en éclaireur, hein, voilà. Puis après, on envoie un bateau spécial des mineurs. Bonjour, capitaine. Je m'appelle Jack et je me porte volontaire pour cette croisière spéciale des mineurs.
Non.
Je suis ici avec des amis que j'ai rencontrés chez Woody Allen. C'est Roman Polanski et Gérard Miller qui hypnotisera les Iraniens pour qu'ils nous laissent passer.
Oui, tes paupières sont lourdes. Oh, t'as quoi sous ta djellaba? C'est mignon, ça. Oh.
Magnifique. Au besoin, je peux même fournir un bateau. J'ai gardé les clés du yacht de Jeffrey. Oh. Ça s'annonce pas mal, en fait, bah, cette histoire.
Finalement, ça a peut-être marché, du coup. François Bayrou sort son nouveau livre, Alerte sur la France qui vient, consacré à l'état des finances publiques.
Alors, j'ai vu, en le lisant, oui, vous avez eu la même réflexion.
Alerte.
C'est un titre extrêmement bizarre. Je sais même pas comment le lire. Alerte sur la France qui vient. Alerte sur la France qui vient.
Oh,
moi, je trouve que alerte sur la France, ça suffisait, en fait. Oui. C'est bizarre. En tout cas, alerte sur la France qui vient, c'est le livre de plage idéal. C'est comme Alerte à Malibu, sauf que là, c'est pas David Hasselhoff qui empêche les gens de se noyer, c'est un beau Béarnais qui empêche le pays de couler. C'est caliente, c'est tropical, c'est la France qui vient. Alors, c'est un pamphlet sur la médiocrité du parti au pouvoir depuis 10 ans qui n'a pas réduit la dette. Bah, c'est pas un livre que t'aurais dû écrire, c'est une lettre d'excuse, mon grand. Et alors, François Bayrou a aussi annoncé qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle. Grand ouf de soulagement chez les 72 autres candidats du centre droit. Alors bon, c'est un peu le même soulagement que Léon Marchand quand il a appris que Philippe Croizon déclarait forfait pour le 400 mètres nage libre. Donc c'est relatif, mais quand même. Et c'est surtout un grand ouf de soulagement pour Apolline de Malherbe, qui ne l'aura pas en débat. Parce que c'est long, hein.
Ouais.
François Bayrou, quelles sont vos solutions pour le pays? Apolline de Malherbe. Mes solutions. Quelles sont-elles?
Non.
Il est urgent, vraiment urgent, de... Oui, qu'est-ce qui est urgent, François Bayrou? Dites-nous ce qui est urgent. Et nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du temps.
Ça, c'est sûr.
Oui, mais nous non plus, on ne peut plus se permettre de perdre. Alors, l'urgence.
Oui.
Madame de Malherbe, l'urgence de ce pays.
Non.
Quelle est-elle?
Elle a des flashbacks.
Et je le dis.
Grave, t'as réveillé un trauma.
Bon, bah, il est 4h du matin, on doit rendre l'antenne. C'était gentil d'être passé, François Bayrou.
Il y a 40 ans, le 19 juin 86, Coluche nous quittait.
Oui, on se souvient tous de ce qu'on faisait ce jour-là, évidemment. Moi, je passais mon permis poids lourd, figurez-vous. Non, j'avais 4 ans.
C'est ça, je me...
Ceci explique peut-être cela, d'ailleurs. Non, c'était fou, Coluche. C'était fou. Un clown se présentait à la présidentielle. C'était une première à l'époque, parce que maintenant, on a l'habitude tous les 5 ans, tu vois, il y a Nicolas Dupont-Aignan, il y a Florian Philippot. Mais Coluche, les gens le prenaient au sérieux, lui. Coluche, il a travaillé sur RMC.
Oui.
Il
est
quelques semaines, même quelques jours, et après il s'est fait virer parce qu'il a traité la principauté de Monaco qui possède RMC de rocher aux puces, c'est connu. Et c'est l'occasion, bah ouais, il l'a vraiment balancé. C'est l'occasion de faire un petit quiz. Cette personne a-t-elle animé une émission sur RMC?
Alors,
on va voir si vous connaissez bien votre station. Attention, c'est parti. Daniel Evenou a animé une émission sexy, Libertinage.
Oh bah ça pourrait.
Oui, c'est vrai.
Voilà, ah bah voilà.
Françoise Hardy a animé une émission coquine intitulée Le Journal du Hardy.
Non.
Mais elle a animé sur RMC quand même, Françoise Hardy. Patrick Bruel a co-animé la même émission.
Non.
Simone Garnier de Tournée Manège, la maman de Lou Garnier.
Non, c'est pas maman.
Huguette Pourchet, la maman de Victor Pourchet. Une émission de relooking pour hommes qu'il a écouté attentivement avec ses belles moustaches, bien sûr, évidemment.
C'est vrai, bien sûr.
Sacha Distel, une émission sur la chanson.
Bah, pourquoi pas, oui.
Oui, exactement. Claude François, une émission spéciale intitulée Chanteur survolté.
Non, c'est pas vrai.
Cabrol, pour une émission sur la santé de la Terre.
Oui, bien sûr, ça pourrait.
Oui, exactement. Voilà. Michel Sardou, pour une émission sur la santé de la Terre. Brûlée au vent des landes de pierre. Alors, pas cette émission, mais il a animé quand même. Voilà, et bien vous êtes très balèze. Bon week-end.
Merci Arnaud, qu'on retrouve évidemment tous les jours en direct sur RMC, en podcast et en tournée
mondiale,
toute en France. Alors pour l'instant, on m'a donné plutôt les villes de France, mais
les bleds même, on va dire.
Mais je suis preneuse pour le monde entier. Arnaud sera à Jonzac, à Épinal, à Gaillac, au Garric, à Reims, à Dijon et à Morières-des-Avignon, un spectacle RMC.
Votre moment humour avec Seigneurie, avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie.
Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Il est 8h21. Dans un instant, on se retrouve pour le face-à-face avec mon invité ce matin, Jean-Marc Jancovici, ingénieur spécialiste du climat. Il alerte depuis des années sur l'adaptation nécessaire au changement climatique. Sauf que là, l'adaptation, il n'y a plus franchement le temps. Qu'est-ce qu'on fait là dans l'urgence? Je lui pose la question dans un instant. Il est 8h21. Merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clara Gabier.
Et nous ne sommes pas au bout de nos peines, la chaleur s'étend encore en France. 53 départements en vigilance orange canicule à partir de midi, entre 35 et 38 degrés attendus pour une grande majorité du pays. Emmanuel Macron appelle à une grande vigilance. Certaines écoles de Tours et de Sens fermées aujourd'hui. Les oraux du bac de lundi et mardi reportés d'une semaine dans l'académie de Poitiers. La SNCF de son côté annule jusqu'à lundi 71 trains intercités pour prévenir des éventuelle panne de climatisation dans les rames. Leur colère n'a d'égal que leur dégoût. La réaction des parents de Liana par la voix de leur avocat après les premières conclusions de l'autopsie, deux semaines après la découverte du corps de la collégienne. Elle a été victime d'un viol. Son corps porte des traces d'ecchymose, mais les causes exactes de sa mort ne sont pas encore connues. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran devaient commencer aujourd'hui en Suisse après la signature de leur accord, mais les pourparlers sont reportés. C'est ce qu'a annoncé ce matin le gouvernement suisse. Et puis le Mexique, premier qualifié pour les 16e de finale de la Coupe du Monde après sa victoire 1-0 contre la Corée du Sud. Un autre pays hôte, le Canada, a écrasé le Qatar, victoire 6-0. Match nul un partout entre la République tchèque et l'Afrique du Sud. La Suisse a renversé la Bosnie 4-1. Prochain match ce soir à 21h, ce sera États-Unis-Australie. Ce sera à ne pas manquer, évidemment, sur RMC.
C'était le rappel des titres de Clara Gabillet. Dans un instant, mon invité sur RMC, BFM TV, c'est Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur spécialiste du climat. Il alerte depuis des années sur la nécessaire adaptation au changement climatique. Jean-Marc Jancovici sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Marc Jancovici.
Bonjour.
Merci d'être à mon micro ce matin. Vous êtes ingénieur, spécialiste du climat. Vous présidez ce think tank The Shift Project qui alerte depuis des années. Et là, on le voit, ces derniers jours, record sur record, 40 degrés atteints hier. On n'est toujours pas à l'été, hein, officiellement. Ça va s'arrêter où? Ça va monter jusqu'où?
Ben, ça va continuer à monter. Il y a aucune surprise à avoir là-dedans. Enfin, je veux dire, si les gens qui nous regardent sont surpris, pardonnez-moi d'être un peu taquin, c'est que vous avez mal fait votre travail jusqu'à maintenant.
Pourtant, je vous ai beaucoup reçu, donc vous aussi, semble-t-il.
Beaucoup. Non, c'est pas moi qui fais la programmation des médias. C'est tout ce qui est en train de se passer est parfaitement en ligne avec des prévisions qui ont été faites il y a maintenant des décennies. On sait depuis deux siècles que quand on rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le climat se réchauffe. On sait depuis un siècle à peu près de combien il se réchauffe en fonction de la quantité de CO2 qu'on rajoute. Donc pour le moment, il est en train, tout se passe comme prévu.
Tout se passe comme prévu. Vous n'êtes absolument pas surpris.
Non, je suis un peu, j'aime pas ce qui se passe.
Vous le subissez comme tout le monde.
Je le subis comme tout le monde, mais j'ai envie de dire tout se passe comme prévu, malheureusement.
Jean-Marc Jancovici, il y a évidemment des conséquences très concrètes. On va y venir dans un instant sur les questions de transport, de santé, d'école. Mais au fond, quand je vous écoute et que vous dites continue à rajouter des gaz à effet de serre. Je voudrais qu'on arrive à peut-être se mettre d'accord sur les chiffres et que vous m'expliquiez ce qu'il en est. Parce que les chiffres montrent justement que ça a commencé à descendre. Et pour le coup, thermomètre monte. L'INSEE hier, et justement, je voudrais comprendre comment vous lisez ces chiffres, ou alors s'ils sont faux. L'INSEE sur le climat a publié cette semaine l'idée que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 2,1%.
En France.
En France.
Oui, en France.
Pour 2026. Qu'en France, si on prend la période 2017-2026, il y a une baisse de 25% des émissions de gaz à effet de serre. On a baissé d'un quart.
Oui, mais ce qui compte pour le climat en France, c'est les émissions mondiales. C'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Pourquoi ça? Parce que le CO2 est un gaz chimiquement stable une fois dans l'atmosphère. Donc il va y rester très longtemps une fois qu'on l'a mis. Et donc à cause de la circulation atmosphérique qui brasse l'air partout sur la planète, en fait le lieu d'émission du CO2 n'a pas d'importance. Donc le réchauffement que nous sommes en train de subir en ce moment, c'est la conséquence des émissions passées en France, aux États-Unis, en Chine, en Mongolie, en Norvège, en Suède, et partout ailleurs, en Argentine et partout ailleurs.
Voilà. Mais ça veut dire aussi, Jean-Marc Jancovici, que des efforts ont été faits et qu'ils ont porté leurs fruits.
Alors, des efforts ont porté leurs fruits en ce qui concerne les émissions françaises, Mais en ce qui concerne les émissions mondiales, elles sont en hausse depuis toujours.
Mais donc, c'est-à-dire que là, on se donne du mal, mais de toute façon, on est tributaire des autres.
Alors, on est tributaire des autres en ce qui concerne le climat. Par contre, il y a eu un petit truc dans l'actualité récemment qui vient se rajouter à la canicule, qui s'appelle le détroit d'Ormuz, qui nous rappelle que de toute façon, nous, on va devoir faire avec de moins en moins de combustibles fossiles parce qu'on importe tout et que les gens qui nous fournissent vont voir les gisements de toute façon se tarir.
Mais votre réponse à vous là-dessus, c'est pas forcément de se dire, bah, allons nous fournir ailleurs, c'est apprenons à nous en passer.
Bah, c'est pas que c'est qu'on peut plus, on va plus pouvoir se fournir ailleurs. Vous savez, extraire du pétrole, c'est vider des placards. Le pétrole met entre 40 et 400 millions d'années à se former sous terre, le gaz pareil, le charbon pareil. Et quand vous videz un placard, c'est assez facile de comprendre qu'au bout d'un moment, vous pouvez plus avoir en provenance de votre placard la même chose qu'avant. Donc
le placard se vide.
Le placard se vide, exactement. Et donc l'approvisionnement peut pas être garanti pour l'éternité.
Alors le détroit d'Ormuz, on va voir s'il rouvre ou pas. En attendant, en effet, on entend les propos même de Donald Trump qui pratiquement premier mot après le début d'un accord, c'était rallumer les moteurs, faites couler le pétrole.
Oui. Alors, aux États-Unis, ils peuvent, parce qu'ils sont redevenus le premier producteur mondial. Mais sur la planète, on peut pas. En fait, la planète a passé en 2008 le pic de production sur le pétrole qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas pétrole de schiste américain et sable bitumineux canadien. Et en ce qui concerne l'Europe, l'Europe est en décrue subie de combustibles fossiles depuis 2007. Tout simplement parce que nous étions dépendants de la mer du Nord qui a passé son pic en 2000 sur le pétrole, en 2005 sur le gaz. Nous étions dépendants du charbon qui a passé son pic dans les années 80 en Europe. Donc en fait, en Europe, on est en décrue subie de combustibles fossiles. Et même si demain matin, la Commission, les dirigeants allemands, français, italiens, etc. disaient rallumer les moteurs, on en consomme autant qu'on veut, on continuerait à consommer de moins en moins d'hydrocarbures. Tout simplement parce qu'il y en a de moins en moins qui sont accessibles aux Européens.
Ça veut dire que quand Emmanuel Macron dit le soir de Versailles, c'est une bonne nouvelle parce que les prix à la pompe vont baisser, à vos yeux, c'est pas forcément une bonne nouvelle.
Ah non, alors de toute façon, quelque chose qui va peut-être choquer une partie des gens qui nous écoutent, le pétrole est gratuit au regard du service qu'il nous rend.
C'est-à-dire?
Le pétrole a fait le monde, enfin, les combustibles fossiles ont fait le monde moderne. Ça a fait notre pouvoir d'achat, les retraites, les études longues, l'urbanisation, le milliard d'objets qu'on peut s'acheter, le commerce en ligne, les smartphones, etc. Tout ça, c'est des combustibles fossiles. Et donc, au regard de ce que ça nous a amené, ça ne vaut rien.
C'est peanuts.
C'est peanuts, absolument.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudra renoncer à toute la liste que vous venez de faire?
Alors, ça dépend. La semaine prochaine, non. À l'échelle du siècle, oui.
Renoncer?
Bah, on va en avoir de moins en moins, oui, il va falloir faire avec de moins en moins.
Apprendre à s'en passer. Est-ce que vous êtes partisan de la décroissance?
Elle est déjà là. Quand on regarde l'économie européenne, en fait, elle est déjà en décroissance depuis une vingtaine d'années. Alors, à quoi je mesure ça? À la quantité de marchandises qui circulent dans les camions. Cet indicateur baisse depuis 20 ans, depuis 2007. Et au mètre carré construit dans l'année, cet indicateur baisse depuis 2007 également, en Europe. Donc, en fait, l'économie physique en Europe, elle est déjà en train de se contracter et c'est une raison pour laquelle une fraction croissante de nos concitoyens ont du mal à joindre les deux bouts, ont de plus en plus de mal à se loger, à accéder à la consommation. Quand vous recevez un distributeur ici, il vous dira qu'une large partie de la population française déconsomme déjà. Alors pas monstrueusement, mais un peu. Et tout ça, c'est la conséquence de ce que je viens d'évoquer sur l'énergie.
Et c'est déjà amorcé, on va en venir évidemment aux conséquences, mais là, immédiatement, quand vous me dites « c'était prévu », ça va continuer à monter.
Ça va continuer à monter
jusqu'où, c'est-à-dire vos analyses
Ça va dépendre de ce qu'on va continuer à rajouter comme CO2 dans l'atmosphère. À partir du moment où on a créé un surplus de CO2 dans l'atmosphère, comme le CO2 est très stable chimiquement, il faut attendre plus de 10 000 ans après arrêt des émissions pour que le surplus s'évacue.
Vous êtes en train de me dire qu'il va falloir attendre 10 000 ans pour que la température baisse?
Alors, il va falloir attendre 10 000 ans pour que le surplus évacue. Non, la température va baisser avant 10 000 ans. Par contre, pour que la température commence à baisser, il faut que les émissions deviennent nulles. Les émissions planétaires deviennent nulles.
À zéro. En est très très loin.
On en est très très loin. Donc, tant qu'on continue à rajouter du CO2 dans l'atmosphère, la température va continuer à monter.
Il y a une chose, vous dites nul, mais entre nul et rajouté, il y a quand même une baisse.
Non, tant que c'est nul, tant que c'est pas nul, une partie du CO2 qu'on émet reste dans l'atmosphère et la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente.
Donc Jean-Marc Jancovici, ce matin, vous nous dites que les 40 degrés qu'on a passés déjà hier. Mais vous nous dites,
le GIEC, le spécialiste du climat,
qu'au fond, le fait qu'on passe de plus en plus tôt et de plus en plus haut des records, ça ne va que continuer pendant au moins 10 ans?
Ça va continuer pendant jusqu'à temps que les émissions soient pas nulles. Donc pendant beaucoup plus que 10 ans.
On fait quoi en attendant?
Il faut baisser les émissions le plus vite possible. Ça, c'est
très
clair.
Est-ce que c'est foutu? Est-ce que ceux qui nous écoutent là?
Alors, une partie de ce qui, ce qui est foutu, entre guillemets, c'est que c'est pas parce qu'on va commencer à baisser les émissions que le climat va se remettre dans l'état dans lequel il était avant qu'on ait commencé à émettre. Ça, ça n'arrivera pas de votre vivant, ni du vivant de vos enfants, ni du vivant de vos petits-enfants. Donc, il va falloir apprendre à vivre avec un climat qui aura changé. De toute façon.
D'ailleurs, vous parlez d'enfants et de petits-enfants, mais une grande partie de la classe politique, économique, s'effraie du fait que les Français ne font plus d'enfants. Est-ce qu'à vos yeux, c'est une bonne nouvelle que les Français ne fassent plus d'enfants ?
Je n'ai pas d'avis là-dessus.
Vous avez un avis, mais vous ne voulez pas le donner.
Non,
j'ai pas. Vous avez peur de la polémique.
Non, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est d'abord avoir un enfant, c'est une décision extrêmement personnelle. Ce qu'on constate, c'est que
ça ne concerne pas d'avoir d'enfants, à titre personnel, mais à titre collectif.
C'est un long débat. D'abord, ça ne concerne pas que la France. La baisse du nombre d'enfants est quelque chose qui est mondial. C'est un phénomène mondial qui se constate absolument partout.
C'est juste.
Et sur les 5 dernières années, du reste, ça s'est même accéléré de façon très forte. Et ça a surpris beaucoup de démographes, du reste. Et donc, c'est difficile, avant de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, il faudrait essayer de comprendre pourquoi.
Ce que je veux dire, c'est que ma question, c'est est-ce que lorsque les politiques disent qu'il faut réarmer démographiquement le pays, il faut encourager, aider les familles.
Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la Terre ne peut pas supporter 8 milliards d'individus vivant comme un Français modeste. Voilà. Ça, c'est pas possible.
Ça veut dire quoi? Il peut les supporter comme un Français riche?
Non. Comme un Français modeste consomme trop pour que 8 milliards d'individus puissent consommer comme lui.
Donc il faut effectivement, en tout cas en l'état,
donc ça veut dire
ne pas augmenter ce chiffre.
Voilà. Donc ça veut dire que effectivement, si le chiffre augmente trop, ça augmente les problèmes qu'on a à gérer.
Entre temps, Jean-Marc Jancovici, il va falloir s'adapter effectivement, ne serait-ce que pour survivre face à cette chaleur. Et il y a ce débat clim ou pas clim.
C'est pas un problème majeur. Alors la clim, d'abord c'est la partie émergée de l'iceberg. Il faut bien voir que le réchauffement climatique, certes, c'est pénible quand il y a une vague de chaleur, moi le premier. Cela étant, c'est pas le fait d'avoir chaud qui est la conséquence la plus dommageable de ce qui est en train de se passer.
Alors c'est quoi ?
Il y a des problèmes avec les récoltes, il y a des problèmes avec la fissuration des bâtiments, il y a des problèmes avec la résistance des infrastructures, les trains qui roulent ou qui roulent pas, il y a des problèmes avec les usines qui peuvent travailler ou pas, il y a des problèmes avec les chantiers extérieurs qui peuvent se mener ou pas, il y a des problèmes avec les fleuves et l'approvisionnement en eau, parce que quand il fait très sec et très chaud, ben vous avez moins d'eau disponible. Enfin bref, il y a un milliard de problèmes dans lesquels le fait que on est chaud, c'est un problème parmi 50, et c'est pas nécessairement le plus grave.
Avec cette question, vous évoquiez les trains. On voit par exemple qu'aujourd'hui, il y a 70 trains qui vont être annulés. C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que on voudrait encourager les gens à prendre les transports en commun, mais face à ces chaleurs, ils ne fonctionnent plus.
Oui, alors ces chaleurs, c'est quand même pas toute l'année, il faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Par ailleurs, il y a 70 trains qui fonctionnent pas, mais enfin, il y en a quand même un certain nombre d'autres qui fonctionnent.
Un grand nombre qui fonctionnent, et c'est surtout
Par contre, pour donner l'exemple du train, on a construit nos infrastructures dans un climat donné. Tout le monde sait que quand on chauffe des corps, ça se dilate. Par exemple, les rails, ils ont été construits pour supporter une certaine élévation de température. Si l'élévation de température est trop importante, la dilatation du rail est trop importante et les rails se cognent les uns contre les autres et les voies se tordent.
Ça
peut être une conséquence du réchauffement climatique. Et vous en avez également sur l'allongement des caténaires. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2003, il y avait une ligne à haute tension. C'est pareil sur les câbles des lignes à haute tension. Quand il fait très chaud, le câble se dilate. Et il y a une ligne à haute tension entre la France et l'Italie en 2003 qui s'était tellement dilatée qu'elle a touché terre et déclenché un incendie. Donc, en fait, tout a été adapté au climat qui a été stable pendant des milliers d'années. Et le fait que le climat commence à se dérégler, ça va poser des problèmes un peu partout.
Va-t-il devenir stable haut ? C'est-à-dire, est-ce que ce que l'on connaît aujourd'hui devient la nouvelle stabilité ?
Tant qu'on émet, non.
Parce qu'il n'y a toujours pas de palier.
Tant qu'on émet, on battra record sur record.
Jean-Marc Jancovici, je reviens quand même sur ma question de clim, parce que hier, le patron des programmes de l'ADEME, David Marshall, a dit qu'il était défavorable à la climatisation. Il dit si on massifiait son usage à Paris, par exemple, dans tous les logements, on aurait un impact entre 2 et 4 degrés sur la température extérieure. Oui. C'est juste ?
Alors, j'ai pas fait les calculs, mais en tout cas, la conclusion est qualitativement correcte. Qu'est-ce que c'est qu'une climatisation ? C'est un engin qui va vous retirer la chaleur de l'intérieur et la rejeter à l'extérieur. Donc effectivement, s'il fait plus frais à l'intérieur, il fait un peu plus chaud à l'extérieur. Pendant longtemps, une des raisons de critiquer la clim, c'était sa consommation électrique. Là, il se trouve que ça, c'est plus tellement un problème parce qu'au moment où il fait très chaud, il y a aussi beaucoup de soleil. Et au moment où il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'énergie solaire.
Autant l'utiliser.
Exactement. Okay. Donc là, on peut l'utiliser. Par contre, le fait qu'on rejette beaucoup de chaleur à l'extérieur, ça, c'est tout à fait avéré.
Mais pourquoi on a autorisé la clim dans les voitures et pourquoi, je veux dire, on n'imaginerait plus une voiture sans clim?
Bah, vous savez, pourquoi est-ce qu'à un moment on a autorisé la cigarette? Enfin, je veux dire, de temps en temps, on fait des choses et puis on se rend compte après coup que c'était pas nécessairement une bonne idée ou qu'il y a des effets indésirables qu'on n'aime pas.
Vous dites qu'il faut changer radicalement nos habitudes et vous dites qu'il y a trois façons d'économiser l'énergie. L'efficacité, alors ça évidemment c'est le progrès, la sobriété, renoncer, et la pauvreté, mais vous dites ça c'est la même chose que le renoncement mais c'est subi.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que finalement dans un certain sens le retour à une forme de pauvreté vertueuse à votre faveur?
Alors, la pauvreté, non, puisque c'est subi. Ce qui est à ma faveur, à moi, c'est la sobriété, c'est-à-dire le fait qu'on fasse un choix éclairé en se disant on va accepter de changer la façon dont on se comporte parce qu'on va y voir des bénéfices et il va également y avoir... Un changement, c'est toujours un renoncement. Je veux dire, quand vous déménagez, vous renoncez à votre ancien domicile. Donc, il y a des cas de figure dans lesquels renoncer, c'est pas grave. Vous pouvez déménager et trouver ça sympa. Vous pouvez renoncer à des mètres carrés et trouver ça sympa. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous amuser. Il y a des gens qui partent l'été en camping-car et à ce moment, ils passent de 40 mètres carrés habitables par personne à 3 mètres carrés habitables par personne et ils trouvent ça très bien. Donc, de temps en temps, avoir moins de quelque chose, c'est pas nécessairement un drame si par ailleurs on a plus d'autres choses et qu'on trouve que l'équation est globalement une bonne affaire. C'est ça qu'il faut essayer de... C'est à ça qu'on travaille au Shift Project, c'est essayer de trouver des manières sympathiques de proposer autre chose, de telle sorte que la part de renoncement, elle soit acceptable, voire désirée, parce qu'on se dit, finalement, c'est pas très grave.
Jean-Marc Jancovici, est-ce qu'il faut supprimer la Coupe du Monde?
Laquelle?
Celle qui a lieu en ce moment, le Canada, le Mexique et les États-Unis.
Ça dépend. Si les Français gagnent, non. Si les Français gagnent pas, peut-être.
Ah voilà. Donc si les Français gagnent, ça, vous leur pardonnerez. Non, je vous pose cette question parce que le Parisien, mes confrères du Parisien ont fait les comptes avec l'aide d'une association qui s'appelle Greenly. Et ils ont calculé, par exemple, alors là, on prend même pas les fans ou les supporters qui viennent de partout dans le monde, mais le patron de la FIFA, Gianni Infantino, il a assisté, rien que cette semaine, à 10 matchs dans 3 pays. Donc Canada, Mexique, États-Unis, il a parcouru 20 000 km en jet privé. Une heure de vol donc du patron de la FIFA, ça correspond à l'empreinte carbone annuelle d'un être humain moyen.
Oui. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous me dites. C'est est-ce qu'il avait besoin d'un jet privé pour se déplacer? Ça, c'est une première question.
Ah bah, s'il voulait assister à tous les matchs, ou alors il fallait renoncer, comme vous le dites. Mais s'il voulait assister à 10 matchs dans 3 pays, il n'y avait pas d'autre moyen, à mon avis, que celui-là. Mais
je ne sais pas, je n'ai pas été regardé. Alors, ce qui est sûr, c'est que les grandes manifestations internationales, elles ont été permises par le pétrole. On avait fait au Shift Project un rapport justement sur ces manifestations. Et dans un monde avec beaucoup moins d'hydrocarbures, c'est pas sûr qu'on pourra les maintenir. Et effectivement, ça fait partie, au sein du monde sportif, de ces manifestations qui ont une empreinte carbone particulièrement élevée.
Est-ce qu'il faut supprimer la Coupe du Monde?
Alors, est-ce qu'il faut supprimer la Coupe du Monde? Pas nécessairement. Avant de la supprimer, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. On peut par exemple essayer de motiver les gens pour qu'ils se déplacent moins et faire des fan zones dans un certain nombre d'endroits pour que les gens puissent quand même célébrer sans se déplacer. Et quelque part, c'est ce que font tous les gens qui se mettent au bistrot derrière un écran et qui se prennent une boisson et qui regardent le match et qui sont contents d'être là et qui voilà, etc. Il y a également un vrai sujet sur la façon dont on organise les tournées. Les pays d'accueil, etc. Parce qu'on peut faire des choses de telle sorte que ça optimise les déplacements. Et on avait regardé tout ça au Shift Project, donc on a fait un petit rapport que les gens peuvent lire si ça les intéresse sur la façon déjà de baisser les émissions sans supprimer les manifestations.
Je vous poserai la même question sur les JO d'hiver qui vont avoir lieu en France en 2030. Est-ce que c'est souhaitable?
Alors ça, il y a encore un autre sujet avec les JO d'hiver, c'est que ça en général, ça équipe les endroits avec des infrastructures qui sont destinées à durer. Or, il y a un petit sujet avec l'enneigement. Qui est en train de diminuer. Donc la bonne question en ce qui concerne les Alpes, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec le tourisme hivernal, qui aujourd'hui est un très gros contributeur à l'économie de ces zones et qui va progressivement être attaqué entre guillemets.
J'ai l'impression que vous voulez toujours trouver l'équilibre et je le comprends parfaitement. Oui. Jean-Marc Jancovici, oui. Vous ne voulez pas justement décourager les êtres humains qui vous écoutent.
Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce que vous dites à tous les gens qui vivent du tourisme en Savoie, en Haute-Savoie,
etc.
Bon, donc vous pouvez pas juste dire faut supprimer. De toute façon, le Yaka Faucon, ça sert à rien. Donc il faut un peu de nuance. Alors je sais que la nuance c'est compliqué quand on n'a pas beaucoup de temps, mais tous ces sujets-là sont des sujets un peu compliqués et donc il faut regarder comment on arrive à trouver des compromis qui sont acceptables.
Des compromis acceptable pour tenter d'allier efficacité et renoncement, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici d'avoir répondu à mes questions. Ce n'est pas forcément pour nous redonner le moral, mais au moins on sera lucide. Jean-Marc Jancovici, ingénieur et spécialiste du climat, le think tank que vous présidez s'appelle The Shift Project. Il est 8h46 sur RMC BFM TV.
Jean-Marc Jancovici.
Et dans un instant sur RMC, le choix de la rédaction. Quand une cigarette provoque un incendie. Nous serons en direct avec notre correspondante dans le Sud-Est. Et puis on vous donne les toutes dernières infos sur la Coupe du Monde. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 sur RMC, le mondial de Virginie. C'est avec vous Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Dans un instant, toutes les dernières nouvelles sur les matchs, les chants, les supporters. Mais avant ça, le choix de la rédaction. Et c'est avec vous Anna Jojard. Bonjour Anna.
Bonjour.
Anna, vous êtes correspondante dans le Sud-Est pour RMC. Avec la canicule et la sécheresse, le risque d'incendie explose. Un simple mégot de cigarette peut provoquer un incendie.
Et oui, un tout petit mégot, 3 cm à peine, qui a l'énergie suffisante pour faire éclore un feu. C'est dû à ce qu'on appelle la fraise. Vous savez ce qui est incandescent au bout du mégot et qui est à 400 degrés. Ce que je vous raconte là, je l'ai vu de mes propres yeux mercredi lors d'une expérience à l'Entente Valabre, un centre de lutte contre les risques naturels. Les organisateurs ont mis en place dans un bac sécurisé un bosquet qui reproduit la végétation locale et y ont placé un mégot encore allumé. Je vous laisse écouter la suite.
Allez, on y va, on va jeter le mégot. La température est de l'ordre de 400 degrés et ça va donner lieu ensuite à un incendie. Donc là, comme vous le voyez, ça s'étale énormément. On a la forme classique d'un départ de feu. Et comme vous le voyez, on va également imposer un tout petit vent, comme vous l'aviez, 15 km/h. Et vous voyez donc que le feu va se propager.
Et pour reproduire les conditions du réel, il y avait un souffleur d'air chaud et un ventilateur pour simuler un vent léger. Il a donc fallu une minute cette fois pour que le mégot produise une flamme et ensuite tout s'est embrasé en quelques secondes. Ça a été très très rapide.
Alors là c'était une expérience, hein, mais en temps normal c'est comme ça que ça se passe.
Oui, le danger est même accentué quand on jette son mégot sur la route, quand on est en voiture. C'est ce qu'explique Théo Polyman, il est chargé de projet en essai thermique.
Les conditions sont encore plus favorables puisqu'en plus sur une bord d'autoroute, vous avez le béton, l'asphalte, en période estivale, c'est entre 40 et 60 degrés. Donc vraiment, voilà, un jet de mégot avec le passage répété des véhicules également, qui fait rouler le mégot, qui alimente en oxygène par un effet d'appel d'air. On a un effet très favorable. En quelques secondes, on peut atteindre un premier point de flamme dans la partie herbacée de bord de route et atteindre la forêt en quelques minutes.
Une probabilité qui augmente, hein, notamment si la règle des 3-30 est réunie, c'est-à-dire s'il fait plus de 30 degrés avec un vent supérieur à 30 km/h et une humidité de l'air inférieure à 30%.
Et c'est justement à cause de ces risques, Anna, que les élus veulent durcir la loi face aux jets de mégots.
Oui, une proposition de loi a même été déposée en ce sens, hein, pour punir d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait de jeter son mégot lorsqu'il y a un risque incendie quand il fait beau, lorsqu'il y a du vent ou que la végétation est sèche. C'est le sénateur de l'Aude, Sébastien Pla, qui l'a déposé l'été dernier à la suite de l'incendie des Corbières. Souvenez-vous qui a ravagé 17 000 hectares. Écoutez la vie à une femme.
Jusqu'à présent, un jet de mégot était simplement une simple amende de 135 euros. Autant dire, pas grand-chose quelque part par rapport au risque. Un jet de mégot, ça peut malheureusement prouver de très grands incendies, mettre en danger des personnes, coûter très cher au public. Et parfois, malheureusement, avoir des décès sur ce genre d'événement. Donc, il faut durcir et mettre en place des délits qui soient à la hauteur du danger que peut procurer ce geste si simple.
Cette proposition de loi, pour l'instant, n'est pas encore inscrite à l'agenda du Parlement.
Merci beaucoup, Anna. Anna Jojard, correspondante RMC dans le Sud-Ouest. Ce reportage, donc, dans les bouches du Rhône, dans le Sud-Est. Virginie Fulpin est toujours avec nous et on va prendre des nouvelles du Mondial.
RMC, le Mondial de Virginie.
Alors, la Coupe du Monde, c'est le sport, mais c'est aussi des battles musicales.
On va faire un petit jeu, Apolline. Allons-y. Le jeu du « tu préfères ». Tu préfères quel chant de supporter ? On va commencer par les États-Unis avec des fans réunis devant le stade.
Because we support the US, US, US. That's the way we like it, we like it.
Voilà, on va passer aux Anglais maintenant dans le stade qui chantent à la gloire de leur milieu de terrain, Jude Bellingham. On est d'accord qu'ils l'ont pas inventé le chant, hein. On est d'accord.
C'est à vous qu'ils le font bien.
Ou encore les Écossais en plein match dans les tribunes.
Il y a alors, la fun, je dirais, moi, entre les Anglais et les Écossais.
Bon, voilà. C'est à peu près ce que je pense aussi.
Mais c'est vrai que les Américains sont hors jeu.
Voilà, ils sont hors jeu. Ils ont beau accueillir cette Coupe du Monde, être les plus patriotes possibles. C'est vrai que les chants, c'est pas tout à fait leur truc. En tout cas, moins que les Anglais et les Écossais, qui se moquent beaucoup d'eux, d'ailleurs. Franchement, c'est comme ça que vous comptez soutenir votre équipe. En gros, c'est le discours.
D'ailleurs, les habitants de Boston sont devenus complètement fans des supporters écossais.
Ouais, on les appelle la Tartan Army. Vous savez, Tartan comme les kilts, évidemment. Ils ont envahi en nombre les rues de Boston. C'est là que l'Écosse a joué son premier match contre Haïti. Là encore qu'elle affronte le Maroc demain. Et ils arpentent les rues en musique, en permanence et fort. Et alors, les habitants de Boston adorent ça. Ils aimeraient qu'ils restent là, les Écossais. Bon, le seul problème, c'est que avec tous ces Écossais à Boston, les bars sont en rupture de stock de bière, évidemment.
Les supporters anglais en veulent beaucoup aux Américains.
Alors, pas que pour leur chant approximatif. Hein. Ils dénoncent des fraudes à la billetterie. L'Angleterre a joué et gagné son premier match contre la Croatie à Dallas. La ville avait promis le dispositif de sécurité le plus sûr du monde, sauf que ça n'a pas vraiment été le cas. D'après plusieurs médias britanniques, de nombreux spectateurs sans billets auraient réussi à entrer dans le stade. Parmi les témoignages des Anglais, certains disent qu'ils ont scanné eux-mêmes leurs billets, mais que personne n'a vérifié leur identité, ni ce qu'ils transportaient sur eux, ce qui peut poser des problèmes, évidemment.
Et puis, on ne verra pas encore Neymar pour le prochain match du Brésil.
Quand un Brésilien se transforme en Arlésienne, pas encore tout à fait remis de sa blessure, Neymar n'a même pas pris l'avion pour Philadelphie avec son équipe qui affronte Haïti la nuit prochaine. Ça commence à devenir inquiétant pour le Brésil qui n'a convaincu personne lors de son match nul contre le Maroc lors de la première journée.
L'équipe de France, elle, prépare son deuxième match, ce sera contre l'Irak.
C'est lundi soir à 23h, d'ailleurs c'est beaucoup trop tard cette histoire, hein, quand même. A priori, l'Irak est l'équipe la plus faible du groupe, elle a perdu 4-1 contre la Norvège. Moi, bêtement, je me disais que Didier Deschamps allait en profiter pour faire tourner son équipe, faire jouer les remplaçants. Mais je suis pas championne du monde, lui si, et le sélectionneur devrait donc au contraire faire jouer à peu près les mêmes qu'au Sénégal.
Et puis la Coupe du Monde, ce sont des rivalités mais aussi des histoires d'amitié.
Peu importe que le Mexique ait battu la Corée du Sud ce matin, finalement, ce qui compte, c'est que les supporters des deux équipes ont vécu une jolie bromance ou six-mance, je sais pas si ça se dit aussi pour les Sisters. Les Sud-Coréens, très nombreux à avoir fait le déplacement au Mexique, ils dansent ensemble avec les Mexicains sur ce rythme. Forcément, voilà, ça revient. C'est ça aussi l'esprit de la Coupe du Monde. Un peu de fraternité, de fête et de danse.
Et c'est en musique qu'on le vit avec Virginie. Merci Virginie, n'oubliez pas, RMC Radio officielle de la Coupe du Monde. Dans un instant, les GG, quel est le programme, Alain ?
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Le débat, la discussion avec les GG, c'est dans un instant. Jean-Louis Bonamy, le professeur de philosophie, sera là, tout comme Abel Boyer, l'éducateur. Sandrine Pégan, l'avocate. Et puis nous recevrons Sarah Knafo, la députée européenne Reconquête. Alors, qui va y aller à la présidence de 2027. Est-ce que ce sera Sarah Knafo ou son compagnon Éric Zemmour? Ça doit être sympa, les soirées chez eux, pour décider qui sera candidat pour aller à l'Élysée. Allez, les grandes gueules, on vous donne les sujets dans un instant, en direct sur RMC, RMC Story.